Le midi, j'ai le temps, il paraît, hein,
finalement. Ben oui.
Ah ben! Ben oui, j'ai le temps d'écouter Boulevard 102.1, l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV, votre émission d'actualité du midi. Aujourd'hui, on va se faire une dernière heure un petit peu plus humaine, cependant, puis c'est deux sujets qui font beaucoup jaser, alors vous préparez à nous texter au 418-971-1021. On va avoir Rose Guérin, cette jeune femme qui, à 13 ans, un médecin généraliste du cœur, prend des hormones, toi, devient Maxime. Puis à 16 ans, et puis je vais vous faire jouer l'extrait tout à l'heure pour la mettre en place, elle s'en va pour se faire faire la mastectomie, se faire enlever les seins. On est signé là, et là, elle lit le formulaire, puis elle dit, « Ben voyons, il faut que je sois majeur pour ça, j'ai 16 ans. » Bon, c'est pas grave, signé, puis on va vous la faire. Pas grave, signé, puis on va vous la faire. Donc, on va parler avec Rose Guérin, qui maintenant demande une détransition, c'est-à-dire elle est passée de Rose à Maxime, et là, elle est redevenue Rose, elle a 22 ans. Elle demande de se refaire poser des seins, puis là, le régime public lui paye pour la transition, mais pas pour la détransition. Donc, on va parler de ça avec Rose Guérin. Soyez très attentifs aux alentours de 13h10. Et à 13h30, on va avoir également une ex-victime de violence conjugale, Mme Nancy Trottier, qui est maintenant conférencière. Je veux absolument qu'on parle, on a parlé ce matin, je veux qu'on en parle ici, on en jase, Pascal, de messages haineux d'hommes au bas d'un article qui annonce le 10e féminicide au Québec.
Mm-hmm. Des commentaires assez épouvantables là,
oui,
qu'on a
exactement.
Vu circuler même c'est sur les réseaux sociaux. Là.
Oui, on va l'en lire justement tout à l'heure, mettez des commentaires de genre « Ouais, mais hein, t'es, vous savez pas ce qu'elle a fait hein, pour mériter ça! » En passant, personne ne mérite de se faire tuer. Là.
Non, puis tu sais, même des jokes, il y en a qui se défendent par des jokes, là. Oh, ouais. Ça devrait même pas avoir lieu, mais genre, ha ha ha, elle avait pas fait à souper.
Moi, c'est ça.
Je comprends pas quelqu'un qui va aller écrire ça en dessous d'un article où on parle de meurtre.
Exactement.
De
ouais, mais là, vous parlez pas des hommes qui sont. Qui ont des difficultés. Ouais, mais j'en ai eu, moi, des difficultés mentales. Je n'ai pas pensé tuer ma conjointe à ce moment-là.
T'as pas fait de menaces ou des choses comme
non,
ça?
Non, c'est ça. Je suis allé me faire soigner. J'ai pris mon petit baluchon, puis je suis allé voir ma médecin de famille, puis j'ai dit, hey, sais-tu quoi?
Ça va pas?
Ça va pas pantoute mentalement. J'ai besoin d'être soigné. Puis avant, j'avais appelé au centre de prévention du suicide. Puis elle a dit, ben parfait, mon homme, psychologue, puis let's go. Puis j'ai fait une thérapie, puis j'ai changé mes comportements. Pas facile à faire. Ben plus facile de se plaindre.
Puis mettre la faute sur quelqu'un, puis expliquer des comportements qui sont négligents, même envers soi-même, mais aussi épouvantables envers les autres.
Ah ouais, c'est à cause d'elle, là. À cause d'elle, si je file pas. Ouais, t'es-tu posé la question si c'était à cause de toi puis tes comportements? Pas facile à faire.
Et même
faire,
si
ça,
quelqu'un, là, tu fais quelque chose qui te met dans tous tes états,
oh, ouais.
Il y a une limite de réaction à un moment.
Ben, c'est ça. On pense à autre chose à un moment donné, là.
Où on va se faire aider, on va
c'est ça, exactement.
On s'entoure.
On se calme, on prend une bonne bouffée d'air frais, on se calme.
C'est pas facile.
On réfléchit. Il n'y a rien de facile dans ce qu'on dit là. Mais c'est ça la vie, là. Autant les hommes que les femmes ont vu des moments plus difficiles.
Où tu passes après dans la gang des criminels, puis dans cette gang-là,
ben,
c'est pas supposé avoir de joke comme on voit en dessous des articles.
Ah, vraiment pas.
Puis la justice doit suivre son
cours. Ah ouais, on va vous en lire tout à l'heure avant l'entrevue avec Nancy Trottier. Écoute, tous ces gens-là qui ont écrit ça, moi, je les pognerais, je les enverrais en prison. OK, mon homme? T'es un danger pour la société.
Moi aussi, je donnerais quelque chose. Une pénalité judiciaire, c'est sûr.
Ah ouais, va réfléchir. Là. Va réfléchir à ton comportement. Je les enverrai en thérapie en quelque part, mais bref. Ils sont en liberté dans notre société à l'heure actuelle.
On devrait...
C'est très questionnant.
Mettons quelqu'un qui a ce genre de pensée-là à se dire hey, « je vais aller écrire ce type de commentaire-là en dessous d'une publication sur un meurtre, le meurtre d'une femme, quelqu'un qui a subi une violence meurtrière.
Mm-hmm. »
La personne qui est en train de se questionner à se dire « Est-ce que j'écris ça? » Elle devrait tellement se sentir hors la loi puis dans la catégorie critique qu'elle n'écrive jamais ça.
Exactement.
Mais on est rendu dans une société où ça passe, la personne qui l'écrit ose l'envoyer. Il y a plusieurs moments où elle peut se réveiller. Non, non. Au moment de la pensée, au moment de l'écrire, de le taper et de l'envoyer, il y a beaucoup d'engagement là-dedans. Là.
Ben oui. Ah, non, non.
Puis nous, on laisse ça aller.
Écoute, en fin de semaine, j'ai vu la publication de Rachel Renault qu'on a eue en entrevue, qui est la sœur de Gabi Renault. Et justement, on va renforcer les lois. On va l'appeler la loi Gabi Renault pour que les gens puissent voir si leur nouveau conjoint a déjà eu des accusations, a déjà été reconnu coupable de violence conjugale. Puis elle écrivait, c'est hier, dans le cadre de la fête des mères, en disant « Je suis certain que tu prends soin de tes petits loups de là-haut. » Fait qu'à tous les salauds là, qui ont écrit « Ouais, ben, hein, qu'est-ce qu'elle avait fait? » Ben, c'est ça. Ces deux enfants qui vont être privés de leur mère à jamais par un homme violent. Donc, c'est mes derniers commentaires avant l'entrevue. Mais bref.
Puis jamais les
vous savez où est-ce que je me positionne là-dedans? Là, il n'y a pas une excuse au monde pour être violent envers une femme.
Puis si vous voyez des gens autour de vous qui vont pas bien, qui ont un changement de comportement, qui tiennent des propos violents, qui tiennent des propos inacceptables, même si c'est que des propos, si vous aimez cette personne-là, si vous tenez à cette personne-là, agissez. C'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire.
Ah oui.
Même si ça se rend en prison, même si ça se rend à des accusations, vous n'allez jamais regretter le fait d'avoir probablement sauvé la vie de quelqu'un.
Tu as tellement raison. C'est un excellent, excellent point. Dans la première heure, évidemment, on va revenir sur le hockey. T'es tant qu'à s'en remettre un
ben
peu
là,
peuple. Canadien qui en a gagné deux.
Ben oui.
Luc La Liberté va être avec nous autres parce que le mouvement MAGA en prend pour son rhume. Je vais vous faire écouter aussi avec Luc La Liberté. C'est traduit là, par LCN, là, mais un petit point, un petit moment du point de presse de Donald Trump. Il est complètement disjoncté.
Hey, c'est les commentaires que je me suis fait le plus dire en fin de semaine. Ça va, Donald Trump? Mais qu'est-ce qui se passe?
Oh, non.
C'est dur à défendre, là, un point de presse aussi. Puis encore ce matin, aussi confus, aussi
c'est
étrange.
C'est tellement brouillon, il passe d'une place à l'autre. Ça fait aucun sens.
Il n'a pas les mains sur le volant. Puis en plus, il dit, ben mets plus de l'huile sur le feu. Ben, c'est ma façon de voir les choses.
Il est complètement... Il est ailleurs mentalement. Mais avant ça, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Oui, plusieurs choses. D'abord, ben là, on parlait du point de presse du côté de Donald Trump. On y reviendra. Sinon, on a su ce qui allait se passer dans le dossier Locke-Merville. C'est 2 ans de prison pour Locke-Merville pour agression sexuelle. Donc, c'est le chanteur que vous connaissez bien. C'est une peine de 2 ans pour agression commise en marge d'un spectacle à Rimouski à l'été 2000. Ça fait un bout qu'on en parle, mais là, on revenait là-dessus ce matin. C'est le juge qui a déploré que l'artiste ait considéré la victime comme un objet qu'il pouvait utiliser à sa guise, comme un morceau de viande. C'est quand même des termes importants.
Vraiment.
Juge s'appelle James Rondeau qui a condamné ce matin le chanteur de 58 ans à ses 2 ans d'incarcération. Il y a aussi une période de probation de 3 ans pendant laquelle il va pas pouvoir quitter la province de Québec. Il va aussi être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Lui, il réclamait la possibilité de purger sa peine dans la collectivité. Mais là, on a un peu insisté sur le fait que la prison ferme, c'était la seule peine appropriée vu le degré de responsabilité morale de l'accusé. C'est super important. Je vous rappelle, là, on est là-dedans. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle en août 2025, mais les faits qui lui étaient reprochés, c'était en 2000. C'était pendant un spectacle organisé à Rimouski, mais pour la Saint-Jean-Baptiste, et le chanteur, la victime, s'était rencontré dans un bar en soirée. La femme avait raconté lors du procès qu'il y avait eu une courte interaction avec l'artiste et elle a perdu la carte. Et quand elle s'est réveillée, c'était que Merville la pénétrait sans son consentement. Alors, c'est un dossier qui est à venir avec plus de détails, mais quand même, c'est ce qu'on a conclu aujourd'hui de façon assez importante du côté de Rimouski. Le dossier Santé Québec, ça a été implanté samedi. Vous le savez, on en a énormément parlé de ce virage numérique-là. Ça allait bien pour le week-end jusqu'à ce matin où le système a planté. Mm-hmm. Donc, dure matinée, on dit, pour le DSN. Ça a planté du côté de Montréal autour de 8h16 pour une bonne heure. Là, et on faisait des genres de papier sur du papier brun là, que vous connaissez. Fait que ça avait l'air de ça ce matin. Néanmoins, il y a plusieurs problèmes qui ont été observés. On n'était pas capable de se connecter au système EPIC. Les appareils ne fonctionnaient pas. Il y avait absence des examens de radiologie dans le système EPIC. Manque de super utilisateurs sur les étages pour accompagner les médecins. Des informations confidentielles qui concernent les patients qui ont été transmises à des personnes non autorisées. Absence de papier dans les imprimantes. Bon, ça, c'est ce qui est répertorié par le Journal de Québec. On disait, on s'en cachait pas, qu'il y avait à avoir une période tampon ou une adaptation dans le projet pilote. C'est pour ça qu'on ne le déployait pas à grandeur du Québec. Mais voici... ce qui a été ce matin problématique dans le dit dossier. Il y a 4 Canadiens qui ont été exposés à l'antivirus à bord du MV Undius. Ils sont arrivés hier soir vers 18h30 à Victoria. Ils ont été placés en isolement préventif. Auparavant, rapidement, ils ont fait escale à l'aéroport de Bagotville. Il y a eu une 40 minutes là. Ils faisaient partie des personnes encore à bord du navire de croisière qui était touché par l'éclosion suspectée d'antivirus. Éclosion qui a fait 3 morts, plusieurs autres qui ont été hospitalisés jusqu'à maintenant. Pour l'Organisation mondiale de la santé, on poursuit des enquêtes et les opérations de traçage de contacts. Et l'avancement des travaux préparatoires au tramway, ça entraîne d'importantes entraves routières, vous le savez, dans l'ouest de la ville. Et ça, c'est au courant des prochains jours. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 15 mai, intersection du chemin de 4 Bourgeois et du boulevard Pie-Neuf qui sera complètement fermé à la circulation automobile. Détour, oui, mais par l'avenue McCartney puis le chemin Sainte-Foy.
Caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iacarini. Anto, comment s'est passée ta fête des mères?
Très relax, je te dirais. Très relax, je te dirais, mon cher Jeff, j'ai passé une petite fin de semaine tranquille, on va dire c'est comme
tes
ça.
Tes hommes t'ont-tu gâté un peu?
Correct, mais je suis pas le genre de personne qui s'attend là, à un grand déploiement son et lumière pour la fête des mères. Moi, mon attente, c'est d'avoir tout le monde pour souper, puis qu'on passe un moment ensemble. Puis j'ai eu, mon plus jeune m'a fait un superbe acrostiche avec chacune des lettres de mon nom. Il y a beaucoup de N dans mon nom, donc il a dû être créatif pour tout trouver des mots. Donc, je suis noble et novatrice.
Est-ce que quand j'ai vu ça, moi, j'ai tellement trouvé ça cute, puis je suis partie à rire, je me suis dit, c'est-tu une histoire de dictionnaire, tu penses, dans les lettres N?
Ça se peut très bien. Je ne sais pas si il a fouillé dans le dictionnaire, mais tu sais, j'ai pas voulu le remettre en question.
Non.
J'ai juste trouvé que c'était super. Oui. Et mon plus vieux, bon, ça, je mets pas ça, c'est médias sociaux, parce que c'est un adulte, là, puis que je veux pas le gêner, mais il m'a écrit une lettre. Tu sais, il y a 19 ans, puis il a pris le temps de m'écrire une lettre, puis j'ai trouvé ça vraiment... Il y avait même des dessins dans sa lettre, puis il me racontait des anecdotes d'enfance. Écoute, c'était tellement cool, fait que je suis vraiment contente, puis je m'en fous, je veux pas des cadeaux puis des fleurs, ça m'intéresse pas.
Mais ça, c'est magnifique.
Une reconnaissance.
Wow!
C'est beau, la présence humaine à son maximum. Mais ça veut dire que c'est des bonnes valeurs qui sont inculquées. Je te félicite,
on essaye, Antonine. On essaye.
Ah, pas toujours facile, la vie de parent, mais on finit toujours par réussir à faire quelque chose avec ces deux... Ces enfants-là, t'es moi, mes deux gars, je vais regarder en fin de semaine, coach au flag football, joue au flag football, travaille, sont pleins d'énergie, j'étais vraiment très fier d'eux. Antonine, parlant de fierté, de déploiement de dossier santé numérique qui, finalement, s'est bien déroulé ce week-end.
Ben, écoute, tout est relatif. En fin de semaine, ça n'a pas été le bug de l'an 2000 là, annoncé par certains, j'ai envie de dire, les chevaliers de l'apocalypse là, avec ce déploiement limité de dossiers santé numérique. Mais ce matin, ça se passe effectivement un peu moins bien. On s'y attendait là, à ce qu'il y ait des bugs. Pascal, tu rapportais notamment que on prenait les signes vitaux de certains patients puis on les notait sur du papier brun. Évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on doit beaucoup apprécier du côté de Santé Québec comme témoignage qui arrive du terrain, mais en même temps, on le savait qu'il y aurait des ratés et c'est pour ça aussi que c'est pas déployé partout au Québec en même temps. Donc, on continue de surveiller ça. Puis l'important, ça va être qu'il y ait des ajustements qui soient apportés pour que, justement, quand ça va être étendu au reste du réseau, qu'on s'assure de ne pas faire les mêmes erreurs deux fois du côté du déploiement.
Bien, si tu permets, justement, on écoute la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, à cet effet, qui a réagi, justement, à la panne en Mauricie de ce matin.
Concernant la latence, donc, les problématiques qui ont eu lieu avec les bandes passantes, c'est arrivé aussi ce week-end. Ils ont pu rétablir rapidement. Ce matin, c'est arrivé pour une période d'environ 2 heures. On me dit que c'est corrigé. Vous savez, ce qui est plus important, c'est qu'on a des centres de commandement dans les deux établissements, en Mauricie et au CIUS du Nord, et c'est la capacité de réaction parce que, oui, c'est normal qu'il y ait des anomalies ou des problématiques qui reviennent, qui surviennent.
Moi, il y a ça que je trouve qui a été bien fait dans cette période de changement, c'est-à-dire les espèces de centres de crise là, créés à Montréal et à Trois-Rivières. On l'a entendu aussi en fin de semaine, qui fait en sorte que dès qu'il y a une problématique, ces gens-là sont très disponibles et on est capable de la régler quand même assez rapidement. Fait que ça, j'ai pas le choix de donner une bonne note à Santé Québec pour ça.
C'est un bon point pour eux. Et je dirais, l'autre élément, j'ajouterais dans les points forts, c'est la communication, là, parce que Santé Québec vraiment fait des états de situation réguliers. Ils sont très présents. On sent qu'il y a une bonne transparence. Puis je pense que c'est un des mots-clés, non seulement en politique, mais quand on donne des services publics, de faire preuve de transparence, de ne pas essayer de tout mettre beau tout le temps puis de balayer en dessous du tapis. Au contraire, de répondre aux questions, aux préoccupations. Puis surtout, les préoccupations des gens qui travaillent dans le réseau. Tu sais, les patients, évidemment, hyper important, les citoyens, les payeurs de taxes, bien sûr, mais les gens qui travaillent à travers le réseau. Et on le sait à quel point c'est déjà extrêmement difficile de travailler dans notre réseau public. C'est pas toujours des conditions optimales. Ils sont souvent à bout. Donc, il faut que ce projet de transformation numérique fassent en sorte de rendre leur travail plus facile. Puis je nous invite tous à garder un peu les yeux sur l'objectif aussi. Le processus va être difficile, là. On le savait, puis il n'y a pas de surprise là-dedans. Mais si on est capable d'avoir vraiment une amélioration en efficacité, en efficience dans notre réseau de la santé, j'invite aussi les groupes d'opposition, les partis d'opposition à ne pas faire exprès non plus de faire dérailler le projet politiquement et de se rappeler que ce n'est pas un projet de la CAQ, là. Informatiser le réseau de la santé puis le dossier santé numérique, là, c'est pas un projet de la CAQ. Je comprends que des fois, on n'a pas envie qu'il y ait des gains, hein, chez nos adversaires politiques, mais là, c'est vraiment un gain pour les travailleurs de la santé et pour les patients du Québec. Donc, il faut rester constructif.
Est-ce qu'on devrait plutôt le voir en se disant on se retrousse tous les manches? On fait la vie habituelle du côté des oppositions, mais c'est un projet de société. Puis si c'est pas la CAQ qui le fait, bien, ça va être un autre parti. Fait que faisons-le tout le monde ensemble parce qu'on veut aller au même endroit.
Oui, puis on ne sait pas, hein, qui va former le gouvernement l'automne prochain. Il y a quelqu'un qui va hériter de ça. Et des dossiers là, sur lesquels attaquer le gouvernement, il y en a plein. Puis les oppositions doivent faire leur travail aussi de surveillance. Puis on sait qu'il y a des enjeux qui peuvent être liés au contrat public qui ont été donnés. Il peut y avoir des enjeux au niveau du cadre financier de ce projet-là. Mais je pense que la limite, c'est vraiment de se dire, OK, on ne fait pas exprès non plus là, pour en faire une crise où il n'y a pas de crise encore. Là, t'sais. Donc, parce que moi, j'ai travaillé là, pour des partis d'opposition. C'est sûr que ton objectif, c'est de mettre le gouvernement mal à l'aise. Mais à un moment donné, il faut choisir aussi nos combats. Puis je pense que j'ai l'impression que même si les gens sont un peu cyniques, tout ce qui a eu rapport avec la réforme du réseau de la santé depuis le début, les gens sont un peu découragés, un peu cyniques, mais en même temps, ils aimeraient ça que ça marche. T'sais, on aimerait ça avoir des gains à un moment donné dans notre réseau de la santé. On a l'impression que c'est toujours un échec, peu importe la réforme, peu importe ce qu'on essaie de mettre en place. Je pense qu'on aurait tous besoin d'une victoire, là.
T'amènes un excellent point. D'ailleurs, j'ai adoré entendre Patricia Mayotte, présidente de la Fédération des infirmières du Québec en Mauricie, parler du taux de satisfaction des employés. Écoute bien ça.
Sinon, il y a du positif. Okay. C'est un dossier santé numérique. Ça va être un bel outil informatique. Les gens qui l'ont utilisé en fin de semaine, ils ont vu, tu sais, le grand pas de différence avec le papier et tout le numérique. Fait que quand ça sera bien établi, que les correctifs seront apportés, effectivement, je pense que ça va être un très bel outil qui est apporté présentement.
Fait que donnons-nous le temps que ça fonctionne. Et ça, j'ai aimé de la part de la partie syndicale qui a parlé du bug aussi ce matin, qui a dit, bon, ben on aurait aimé ça que ça arrive pas. Les gens ont été pris un peu par surprise. Justement, on en parlait sur du papier brun, tout le kit. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle a conclu l'entrevue avec Mario Dumont de cette façon-là en disant, hey, savez-vous quoi? Les gens qui l'utilisent depuis en fin de semaine, ils aiment ça. Ils trouvent que c'est plus pratique, c'est plus agile, c'est plus rapide. Donc, gardons ça en tête, on s'en va vers le mieux.
Bien, puis c'est ça. Je pense que toutes les parties prenantes, toutes les gens impliqués dans le dossier doivent exprimer très clairement qu'ils veulent que ça marche. Et ça, je pense que les groupes d'opposition devraient aussi en faire partie. Mm-hmm. Qu'on ait l'impression que vous voulez que ça marche. Après ça, faut pas être complaisant puis pas surveiller, mais puis les syndicats ont bien l'occasion aussi de dénoncer s'il y a des choses qui sont mal faites dans les prochains mois pour défendre leurs membres, les travailleurs de la santé, bien sûr. Mais ce que je sens dans ce qu'elle vient de dire, c'est qu'on veut que ça fonctionne puis on pense que non seulement il y a du positif, mais que ça va pouvoir améliorer le travail des gens dans le réseau. Donc, je pense que c'est très constructif.
OK, Antonine, on passe à la polémique de la fin de semaine qui n'a pas été le dossier santé numérique, mais Québec solidaire et l'entrepreneur François Lambert. On écoute en premier lieu Sol Zanetti.
Mettons au François Lambert de ce monde, là, faut pas qu'il s'inquiète, là. C'est une petite contribution qu'on va leur demander qui va faire une immense différence pour la société québécoise. Pour eux, c'est de l'argent de poche. Ça va pas changer la qualité de la bouteille de vin qu'ils vont sortir de leur cellier le vendredi soir, là. T'sais, c'est quelque chose, par contre, qui va nous aider à réparer le Québec. Puis si on fait pas ça, la société québécoise au complet va s'appauvrir.
Et voici la réplique de François Lambert sur les ondes de Cube Radio.
Mais c'est de la diffamation. Ils assument que je paye pas ma juste part d'impôt, ou les gens d'affaires ne payent pas leur juste part d'impôt. Mais à quelle place qu'ils voient ça? Ils savent-tu combien d'impôts que je paye, combien de taxes que je paye? Je ne vais pas le divulguer. Je le sais combien je le paye. j'ai pas de paradis fiscaux, j'exploite pas mes employés. C'est le discours qui ressort constamment, mais constamment, que pour réussir à avoir de l'argent de côté, puis accumuler une certaine somme, c'est qu'il a fallu exploiter quelqu'un plus bas que nous autres. Ça marche pas comme ça.
Bon, Antonine, résume-nous pourquoi Sol Zanetti a dû tailler François Lambert de ce monde. C'était quoi cette fameuse proposition-là au Congrès de Québec solidaire?
Bon, en fait, le débat sur est-ce qu'on devrait taxer davantage les riches, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est quelque chose qui nous est servi souvent comme une solution un peu magique du côté des partis plus à gauche. Je trouve que ça ressemble un peu aussi à la proposition sempiternelle là, de s'en prendre aux paradis fiscaux et à l'évasion fiscale. Mm-hmm. Là. On va tout régler nos problèmes de financement des services publics avec ces solutions-là. La question de taxer les plus riches, pendant la dernière campagne électorale en 2022, Québec solidaire l'avait déjà apporté, mais il définissait les riches comme quelqu'un qui a au moins $1 million d'actifs. Okay. Là, le problème avec ça,
ben,
en 2026
d'actifs,
ou en 2022...
Là, c'est parce qu'il y a des familles que leur maison vaut $1 million.
C'est
maintenant.
Plus les riches, riches, riches.
Non, non, c'est ça.
Tu sais, quand on était jeunes, on disait « Moi, je vais être millionnaire. » Puis là, c'était gros, là, être millionnaire. C'est plus ce que c'était être millionnaire, non. On s'entend.
À ce temps, on vise d'être milliardaire.
Oui, c'est ça. Ou au moins multimillionnaire, mais... Il faut juste être bien clair, $1 million d'actifs, si vous avez un duplex ou un triplex, là, vous avez des bonnes chances déjà d'avoir $1 million d'actifs. Si vous êtes agriculteur, vous avez de la machinerie, des bâtiments, vous êtes multimillionnaire. Là.
Mais tu n'as presque rien dans les poches parce que justement, c'est tout en infrastructure que tu as besoin à journée longue pour faire rouler ton économie. Les vends
absolument.
Pas, là.
Puis, évidemment, il y en a des personnes riches au Québec là, qui sont ni agriculteurs, ni un petit propriétaire de duplex. Il y en a quelques-unes. Donc là, déjà, en fin de semaine, QS a atterri finalement avec le montant de $25 million d'actifs. Donc, c'est ce qu'on appelle des ultra-riches. Au Québec, c'est ça. Ailleurs, 25 millions, peut-être aux États-Unis, ce ne serait pas grand-chose. Mais dans notre économie à nous, effectivement, $25 million, c'est davantage d'argent. Tant mieux pour eux, parce que je les trouve un peu plus réalistes, parce que de surtaxer les gens qui ont $1 million d'actifs, honnêtement, je veux dire, à part étouffer des gens qui n'ont pas tous énormément de moyens, je vois pas trop l'objectif. Quand on regarde un peu la chicane avec François Lambert, tu sais, premièrement, bon, Sol Zanetti a décidé d'amener le nom de François Lambert vraiment gratuitement. C'est dans le sens qu'ils l'ont pris en exemple, parce que c'est quelqu'un peut-être un peu polarisant aussi, tu sais, qui a eu des propos dans le passé. On pense notamment à combien ça coûte l'épicerie puis tout ça. Là, en 2018, pendant la campagne électorale, il y avait eu une petite controverse entourant ça coûte combien faire une épicerie. Puis François Lambert s'était retrouvé au milieu de tout ça. Et il avait été étiqueté comme quelqu'un qui est un peu déconnecté puis qui comprend pas les gens qui ont moins d'argent. C'est une personnalité qui est bien connue. Donc, QS a décidé de l'utiliser un peu comme une espèce de symbole pour, moi, je trouve, diaboliser un petit peu là, une classe qui est plus aisée au Québec. Est-ce que la proposition de QS est valide? Oui. Est-ce que c'est nécessaire de commencer à diaboliser le monde qui ont réussi? Moi, j'ai toujours un problème avec ça. C'est pas comme s'il n'était pas beaucoup taxé. Là. On est beaucoup taxé, puis les personnes qui ont pas mal de sous le sont beaucoup. Mais de dire, là, il va quand même se sortir une bonne bouteille de vin de son cellier. François Lambert n'a pas apprécié, puis là, tantôt, on avait un extrait d'une entrevue que M. Lambert a donnée, mais sur Twitter, sur X, il est allé de d'autres propos. Là. Il a dit à QS, à tous les Québec solidaires de ce monde, vos gueules. Tu n'as jamais lancé une entreprise, ta gueule. Si tu penses que les entrepreneurs passent leur vendredi soir à boire du champagne pendant que le peuple souffre, ta gueule. Je bois presque jamais d'alcool et même si j'en buvais, ce serait encore bon pour l'État. Ça continue comme ça pendant longtemps, longtemps. Je m'arrête ici. Mais il était très fâché. Puis pour connaître un peu François Lambert, qui est quelqu'un avec qui je collabore dans d'autres émissions, c'est quelqu'un qui travaille extrêmement fort. Ça n'a aucun bon sens. Il ne dort pas la nuit. Il passe son temps à travailler. Donc, j'ai l'impression que ça l'a piqué vraiment là où ça fait mal, évidemment. Puis pour Québec solidaire, là, ben, d'abord, bravo d'avoir changé la définition de c'est qui être riche. Mm-hmm. Mais il y a un enjeu qui est plus profond que ça. C'est le fait que régler les problèmes des services publics, pour moi, ça ne passe pas nécessairement toujours en envoyant plus d'argent.
Okay? En effet.
On est déjà imposé, on est parmi les plus imposants en Amérique du Nord, évidemment, on le sait.
Oui, mais Antonine,
si tu ne règles pas les problèmes profonds, là, tu peux pitcher plus d'argent, mm-hmm. ça ne change rien. Là.
Mais pendant que tu parles de ça, seulement rappeler que ceux qui gagnent 200 000 $ et plus, c'est 48 % de leur salaire qui part en impôt. Mm-hmm. 253 000 $ et plus, c'est 53 % Et ceux qui gagnent 100 000 et plus au Québec, c'est 12 % de la population.
Sans compter.
Qui vaut en proportion 72% d'impôts payés.
Sans compter toutes les taxes en surplus sur les, bon, les objets considérés de luxe ou des trucs comme ça qu'on a ajoutés. Fait que finalement, même si tu veux te gâter un moment, ça te coûte le triple, le quadruple.
Ben, c'est ça. Il faut trouver un équilibre, puis c'est des débats qui sont valides. T'sais, jusqu'à quel point on veut être dans une société où les écarts de richesse sont si grands, mais en même temps, ceux qui créent la richesse puis qui créent des entreprises, il faut qu'il y ait une récompense aussi en arrière de ça pour récompenser le succès. Mais tout ça, c'est une question d'équilibre. Je pense que c'est des débats qui peuvent avoir lieu. Mais c'est sûr qu'il y a une partie des militants chez Québec solidaire qui sont simplement contre le capitalisme. Et ça, ben, je veux dire, rendu là, la création de richesse, ça va pas les intéresser, mm-hmm. finalement, puisque tout passe par l'État. Là, QS nous propose aussi des épiceries gérées par l'État. Tu sais, à un moment donné, ça n'a pas l'air d'avoir une grande importance, la vigueur d'un secteur économique, d'un secteur privé. Ben, moi, je m'excuse, mais on l'a vu, là, des régimes communistes et ultra-socialistes, c'est une spirale qui s'en va de plus en plus toujours vers la pauvreté. Donc, oui, des politiques qui permettent une redistribution, qui permettent de pallier les effets négatifs du capitalisme sauvage. Là, on est tous pour ça. Mais à un moment donné, je trouve que tu passes à un point où tu crées de la pauvreté.
En effet. Et
un frein à la création de richesse et de prospérité au Québec. Donc, c'est des débats importants, mais je ne suis pas sûre que QS va aller rallier beaucoup avec une proposition d'augmenter les impôts.
Non, puis on a un auditeur qui nous écrit « Les riches ont pris le risque aussi de la création. » Et en effet, quand tu te lances en affaires, ce n'est pas toujours évident. Moi, je ne l'ai pas, ce gars-là.
Puis ils consomment aussi. Ça fait rouler l'économie. Ces gens-là, avec des gros portefeuilles, veulent pas. Ils ont la possibilité de consommer. Puis ça, c'est un cercle économique qui est important.
Antonine, je sais que tu n'es pas une chroniqueuse économique, mais je veux dire, moi, par exemple, j'ai trouvé une façon d'être riche. Puis je te le fais entendre, c'est Mark Carney qui me l'a dit.
I have no reason to lie. I personally use this project and it generates my primary source of income. I have seen participants earn up to $40,000 per month and I want you to have the same opportunity.
Et puis là, quand il me dit ça sur Facebook, là, il y avait la bourse qui montait, là, puis là, il me parlait mm-hmm. de ses produits. Fait que moi, j'ai pris 100 000 $ de mon fonds de pension.
T'as sorti tes REER.
Je les ai sortis. Puis j'ai investi dans une compagnie que Mark me disait, parce que Mark, on l'a élu comme premier ministre.
Mais c'est tellement triste.
C'est notre banquier. Vous comprenez, je fais du sarcasme. Et je suis d'accord avec toi, c'est super triste parce que Meta, là, puis X, puis toutes ces plateformes-là, là, ils s'en balancent qu'un monsieur, comme on a vu dans les journaux, perde 125 000 $ Eux autres,
non,
ils font
le
cash, puis that's it, là.
That's it, là. Puis il y a deux dimensions à ça qui rendent ça extrêmement grave de la part des plateformes de médias sociaux. La première, c'est des gens qui se font frauder, puis que, je veux dire, ça gâche leur vie, là. C'est épouvantable. Puis moi, je veux quand même qu'on fasse attention, parce que tu te dis, oh, comment ça se fait que ces gens-là tombent dans le panneau? Bien, il y a des gens qui ont moins d'éducation financière et qui sont aussi souvent les témoignages qui avaient été rapportés dans le journal sur leur excellent dossier sur ces hyper trucages là qui ont fait perdre de l'argent à des Québécois. Mais c'est des personnes qui sont plus âgées aussi, qui sont moins habituées que les plateformes de médias sociaux. Puis l'autre élément, c'est que on laisse Meta utiliser des hyper trucages de personnalités, qu'elles soient connues ou pas. Il y a vraiment quelque chose là de très grave. Et même si c'est toi, là, mettons, là, on fait une publicité, une fausse publicité avec Jeff ou avec Pascal, je prends votre visage, je prends votre voix, bien, vous n'avez presque pas de recours pour la faire retirer. Mm-hmm. Puis même si elle va être retirée, elle va être réutilisée ailleurs. C'est vraiment parce que Meta et X n'ont pas de règles pour se dire bon ben nous là on va se mettre certaines règles, puis quand on voit clairement, parce qu'en plus c'est assez évident pour, en tout cas pour nous, j'ai l'impression que quelqu'un utilise l'image de quelqu'un d'autre sans son consentement, on ne va pas vendre ces publicités là mais comme tu dis, ils s'en balancent. Et là on voit là des gens qui tombent dans le panneau. Il y a une autre publicité qui a fait perdre à un homme de 66 ans de Lévis, il a perdu 150 000 $ à la suite d'une fausse publicité avec François Legault, l'ancien premier ministre, qui invitait les gens à investir dans des crypto-monnaies et promettait des profits rapides. Je veux quand même lancer le message pour nos auditeurs. si c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Okay? Des profits exorbitants avec des investissements, ça n'arrive pas. Et il y a quelque chose d'extraordinaire au Québec qui s'appelle l'autorité des marchés financiers. Mettez ça dans vos favoris si vous êtes quelqu'un qui cherche à investir de l'argent. Parce que ces compagnies-là dont il est question dans le dossier du journal aujourd'hui, souvent, elles faisaient déjà l'objet d'un avis négatif de la part de l'autorité des marchés financiers. C'est à chaque fois que vous voulez investir de l'argent, il y a un courtier qui vous promet toutes sortes d'affaires. Vérifiez auprès de l'autorité des marchés financiers. Puis, si ce n'est pas pour vous, sensibiliser les gens autour de vous. Il faut en parler. Il faut en parler avec nos parents aussi qui sont sur Facebook, qui peuvent tomber dans le panneau. Dites-nous, oh, ça n'arrivera pas. Ça peut arriver. Les hypertrucages sont de plus en plus élaborés. Donc, parlez-en à vos parents aussi.
Antoine, on va parler dans quelques minutes avec Alex Laramie aux alentours de 12h55 du Canadien. Mais je veux te faire écouter ça avant. Hey, la foule est en délai. Victoire du CH 6-2 hier. Mais là, le Parti libéral du Québec, eux autres, ils ont dit « Hey, vu que le monde est en délai sur le Canadien, on fait quoi? On va dire que nos couleurs, c'est le bleu, blanc, rouge maintenant? » Mais ça, c'était juste rouge, les libéraux. Je comprends plus rien.
Effectivement, le logo du Parti libéral du Québec est aussi tricolore. Alors, ils se sont dit, quelle bonne idée. En fait, tous les politiciens québécois en ce moment là, font un petit peu de récupération politique avec leur
hockey. Christine Fréchette avait son gelé du Canadien l'autre jour devant sa table.
Politiciens, entreprises, tout le monde.
Ben oui.
Hey, tout le monde. Tout le monde, si on peut faire une pièce avec ça, on va aller chercher une coupe de vote supplémentaire. Pourquoi bouder son plaisir? Par contre, je dois dire que le PLQ a comme mis le pied l'autre bord de la ligne, là. Commencer à transformer le logo du PLQ.
Ben là, ils l'ont étiré, là.
Ils
ont étiré ça, là.
Ça, c'est non. Puis, je voulais vous raconter une petite anecdote, parce que des fois, il y a des gens qui ont des bons flashs quand même dans des partis politiques. À l'époque que je travaillais au PQ, c'était en 2016, il y avait eu, 2016-2017, on avait eu une série contre les sénateurs d'Ottawa,
oui,
vous vous rappelez peut-être.
Bien sûr.
Et le PQ était en course à la chefferie à ce moment-là. C'était plus 2015, j'ai l'impression. On avait acheté une publicité dans les journaux dans laquelle on disait « Vous voulez sortir Ottawa? Nous aussi, votez pour le prochain chef du PQ. » Donc ça avait été un bon coup à l'époque, mais bon, ça n'a pas permis de gagner l'élection suivante, mais que voulez-vous?
Que voulez-vous? J'en voulais pas, finalement.
C'était créatif.
C'est ça, exactement. Antonine Iaccarini, c'est toujours un bonheur, on se parle demain?
À demain!
À demain! Salut. Antonine Iaccarini dans le caucus avec nous dans l'émission Nageurs sur Boulevard 102.1 de midi à 12h30 du lundi au jeudi.
Plus ça change, plus c'est pareil. Oui. Par exemple, Santo disait ça là, sur le PQ, mais dans la nouvelle série de Martin Matt,
oui,
qui fait un tollé en ce moment.
Très joyal,
là, joyal.
Oui.
Il y a cette lutte-là, oui ou non, à séparation du Québec aussi. C'est quelque chose qui reste.
C'est quelque chose qui reste et qui va rester parce que on va en parler à la prochaine campagne électorale encore. Après la pause, on se fait un bon bloc news. Luc Laliberté va être avec nous pour parler de Donald Trump et de cette guerre en Iran qui ne se termine pas. Puis on va terminer la première heure avec une bonne chronique sportive d'Alex Laramie. Victoire du Canadien de Montréal et à 6-2, Pascal. Victoire vendredi de 5-1. Qui l'aurait cru? On se parle ce midi, le Canadien est en avance 2-1 dans cette série contre les
Hommes. Ça vous apprendra à être des traîtres.
C'est fou dans la tête ce qui se passe à Montréal.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Ah, vous le savez tellement que le 418-971-101, c'est une façon d'interagir avec nous. Vous avez été plusieurs à réagir justement sur Québec solidaire qui veut s'attaquer aux riches de la population québécoise. Et vous êtes d'avis avec Antonine, avec moi, avec Pascal, que y a un petit ménage à faire sur ce qu'on dépense avant de vouloir aller chercher des revenus additionnels. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos interactions. Sur boulevard.fm, vous allez retrouver les meilleurs moments de l'émission. Également, vous pouvez nous écouter via la web radio. Notre application BLVD 102.1 qui est disponible sur App Store, Google Play Store gratuitement. Vous permet de nous écouter partout où vous allez. Et abonnez-vous à notre page YouTube, car vous avez justement du contenu exclusif, notamment demain matin, vous allez avoir le dernier podcast de la deuxième série des grands événements. C'est Denis Gravel qui s'entretient avec la journaliste Julie Lemieux concernant les fêtes du 400e. Peut-être les fêtes du 400e, ça a été une réussite extraordinaire, Mais juste avant que Régis arrive en décembre 2007, là, oh boboy, qu'on s'en allait vers la catastrophe.
Puis pareil, même quand Régis était là, on a eu du Clotaire rappeur, Régis Labeaume a dû faire du yoga.
Il y a
tellement d'anecdotes autour de ça qui, pour moi, ont marqué ma petite mémoire. J'étais jeune, là.
Oui.
Je m'en souviens, fait que c'est super intéressant.
Ça va être la journaliste Julie Lemieux, l'ex-journaliste, qui va être interviewée. Elle travaillait pour Le Quotidien, Le Soleil à ce moment-là. Après ça, elle a fait de la politique, justement,
avec
Régis Labeaume. Le podcast est une présentation de Climatisation Paquette pour la vente de produits Move Air, la marque la plus fiable selon Protégez-vous, installée par une équipe de techniciens d'expérience. Consultez climatisationpaquette.com. On répond à vos demandes dans un délai de 24 heures.
C'est le temps, là. Hein? Je pense que là, on ne sent pas encore. Il fait frais, mais ça s'en vient.
Ah, c'est le temps. Moi, ma blonde a gelé un peu cet hiver. C'est notre premier hiver dans notre nouvelle maison. Puis là, l'été s'en vient. Il va falloir commencer à regarder pour une bonne thermopompe.
C'est pas quand la canicule est
non, que là, faut y penser.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité avant de parler avec Luc Laliberté du conflit en Iran, de ce qui se passe aux États-Unis, là, une perte de popularité vraiment forte pour Donald Trump?
Je t'ai fait deux divisions de bulletins, Jeff. Il y en a que je trouve un peu plus autoroutier, en fait, parce
ça,
que le pont de Québec est de nouveau fermé à la circulation. Puis je pense qu'il faut le répéter parce que c'est durant les nuits, et ça jusqu'au 14 mai. C'est une fermeture entre 21h et 5h30 pour les nuits à partir de ce soir et jeudi, puis de 22h30 à 5h30 pour les nuits de mardi et mercredi. Entraves qui doivent permettre l'installation d'échafaudage, c'est pour les opérations de nettoyage et de peinture. Fermeture qui va être dans les deux directions. Le trottoir, lui, reste accessible. Alors, navette qui va être mise en place pour les cyclomotoristes. Puis au même moment, il y a des travaux d'installation de base de béton pour les lampadaires. Donc ça, c'est sur la route 175, projet de réaménagement au nord des ponts. Alors, fermeture de 2 voies sur 3. Puis ça, ça impacte dans les deux directions. De ce soir à jeudi matin, chaque fois de 21h à 5h, entrave partielle aussi requise. On fait un balayage, nettoyage du tablier du pont Pierre-Laporte. Donc des travaux de réfection du pont Picard. C'est situé plus au sud, là, sur l'autoroute 73, au lieu de la route 132. Et les ornières, les roulières là, à Québec, qui sont de plus en plus nombreuses sur les autoroutes de la région. C'était dans le Journal de Québec aujourd'hui. Le ministère des Transports a confirmé tout cela. Globalement, c'est 86 % des chaussées qui restent en bon état. Il y a plusieurs travaux d'asphaltage qui vont se faire, surtout sur Autoroute de Québec, Henri IV, Charest, Duplessis, La Capitale. J'ai l'impression que je parle à tout le monde en ce moment.
Vraiment?
Et on explique que depuis quelques années, c'est un nouveau mélange enrobé bitumineux qui est utilisé au ministère. Donc, il y a de meilleures résistances à ornierage.
Oui, nouveau mot dans le dictionnaire.
Ça manquait à ma culture.
Directement sorti de ce matin.
Et qui a été testé sur notre réseau, puis ça a donné des résultats satisfaisants. Ouais. Mais là, clairement, on est à la fin de cette vie pour plusieurs autoroutes.
Jessie Caron, expert en automobile pour le CA Québec, est en entrevue avec nous ce matin dans Marceau le matin.
Super intéressant.
Super intéressant. C'est disponible sur blvd.fm.
Je te parle de Locke Merville, agression sexuelle. Vous saviez, on était là-dedans dans un procès pour une soirée qui a mal terminé pour la carrière de Locke Merville, mais surtout a fait une victime. Et ça, c'était à l'été 2000. Donc, le chanteur qui écope de 2 ans de prison. Et ça s'est fait ce matin. Le juge qui a déploré que l'artiste a été dans un genre de trame sonore où il considérait la victime comme un objet qu'il pouvait utiliser à sa guise, un morceau de viande. C'est quand même des gros propos du juge James Rondeau. Et il a condamné le chanteur de 58 ans à 2 ans d'incarcération, plus une probation de 3 ans. Il va devoir rester dans la province de Québec. Et il va aussi être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Lui, de son bord, Locke Merville réclamait la possibilité de purger sa peine dans la collectivité, mais on a quand même insisté sur le fait que c'était une prison ferme, puis c'était la seule peine appropriée vu le degré de responsabilité morale de l'accusé. Le DSN, le dossier santé numérique qui a été implanté samedi dernier en projet pilote, entre autres à Montréal, ça s'est somme toute bien passé durant le week-end. Ce matin, le système a planté. Donc, on a eu des incidents importants parce que, on voulait éliminer, le fax, le papier, mais on ne voulait pas arriver dans un fonctionnement où pendant 1 heure, il n'y a rien qui fonctionnait à Montréal. Donc, à 8h16, 13 ce matin. On a eu plusieurs manquements, plusieurs problèmes. Donc, des personnes qui étaient incapables de se connecter au système EPIC, des appareils qui ne fonctionnaient pas, l'absence d'examen de radiologie dans le système aussi, manque de super utilisateurs. Ça, c'est sur les étages, là, ceux qui accompagnent les médecins. Des informations confidentielles qui étaient à des patients et qui ont été transmises à des personnes non autorisées. Et absence de papier dans les imprimantes. Écoute, on prenait les signes vitaux de certains patients puis on les écrivait sur du papier brun. C'est ce qui a été relevé par nos médias. Donc, clairement, on a eu un problème là, au niveau de Montréal. Mais bon, on travaille très fort pour résorber le tout. Puis on nous l'avait dit que ça n'allait pas être parfait au départ. C'est difficile à vivre. Ça, c'est des mots qui ont été prononcés par la famille des enfants qui ont été happés à Beauport.
Oh oui, quel drame.
Si vous vivez dans le secteur, vous avez vu, il y a eu un genre de manifestation de soutien à la famille depuis tôt ce matin. On traverse une épreuve difficile. Puis on fait valoir que tout ce qui est au niveau de la sécurité automobile doit être renforcé. On avait un point de presse de Christine Charrette aujourd'hui aussi. Québec veut rendre hommage aux policiers morts en service. Donc, on est dans ce genre d'annonce-là plus sociale. On dit qu'ils ont fait le sacrifice ultime en servant leur communauté. C'était le point de presse de Mme Fréchette ce matin. Sinon, Antavirus, tu as 4 Canadiens qui sont exposés à l'Antavirus, qui étaient à bord en fait du bateau, qui ont été ramenés ici à Victoria. Ils sont placés en isolement préventif. Éclosion qui a fait au moins 3 morts, plusieurs autres personnes hospitalisées. L'Organisation mondiale de la santé poursuit ses enquêtes dans tout cela. Et ce qui nous concerne, avant de passer à Luc Laliberté et aux États-Unis, bien, c'est l'avancement des travaux préparatoires au tramway. C'est d'importantes entraves, vous le savez, routières. Ça, c'est pour l'ouest de la ville au cours des prochains jours. Donc, à compter d'aujourd'hui jusqu'au 15 mai, on est dans ces travaux préparatoires-là. On s'attend à des épisodes de congestion dans plusieurs secteurs, particulièrement sur l'avenue McCartney.
On en jase, à Boulevard 102.1.
Je ne sais pas quelle commande à l'auto vous avez fait exploser aujourd'hui. C'était celle du McDo, mercredi passé, avec Audrey Pinchot pour le Grand McDo. Avant qu'on passe à Luc Laliberté, sa chronique en politique américaine. Luc, qui est également producteur des capsules sur les médias sociaux, La Liberté en clair. Il y a de la circulation, Pascal.
Merci pour vos signalements au 88-971-1021. Il y aurait un ralentissement au pont Pierre-Laporte, direction sud. Véhicule arrêté sur la voie de droite.
Luc Laliberté est avec nous pour parler politique américaine. Luc, hier, chronique très intéressante d'Yves Boisvert dans le journal La Presse, le quotidien La Presse, devrais-je dire, où justement Luc mentionne s'être entretenu avec un ex-conseiller des Républicains qui dit « Hey, c'est pas mêlant, le Parti républicain s'en va à l'abattoir pour les prochaines élections de mi-mandat ».
Oui, puis écoute, non seulement il dit on va à l'abattoir, mais en plus, chose très intéressante dans la chronique d'Yves Boisvert, c'est qu'il dit on assiste finalement à l'effondrement de ce qu'on appelle le mouvement MAGA. Cette base pure et dure, loyale, qui suit Donald Trump depuis 2015. Depuis qu'il descend ce fameux escalier roulant puis qu'il annonce son arrivée sur la scène politique. Donc, ce n'est pas n'importe qui, le monsieur Schmitt en question, qui s'exprime, donc qui échange avec Yves Boisvert de La Presse. C'est, entre guillemets, un vieux de la vieille du Parti républicain. Et moi, je me souviens très bien l'avoir suivi à l'époque de la campagne qui opposait Barack Obama à John McCain. Et je ne sais pas si nos auditeurs, nos auditrices s'en souviennent, mais Barack Obama, c'est comme la saveur du mois en pleine campagne électorale. On a un John McCain qui est vieillissant, qui ne peut pas être aussi dynamique que Lee Obama. Et c'est lui qui va avoir ce coup, qu'on considère presque être un coup de génie pendant 2 ou 3 semaines, mais le coup d'aller chercher Sarah Palin, l'ancienne gouverneure de l'Alaska, qui a donné un nouveau souffle à la campagne de McCain jusqu'à ce qu'on la fasse parler dans les médias.
Ouais, et là, elle est allée... Voilà. Elle faisait partie du Tea Party, si je ne me trompe pas. Hein? C'est bien
excellent.
Ça.
Excellent, bonne mémoire.
Donc, c'est là que le prof sort. Excellent, ouais, c'est une bonne note.
Exactement. Oui, puis elle était de la frange très radicale. Mais dis-moi donc, tiens, je réfléchis à voix haute, Luc. Est-ce que l'arrivée de Sarah Palin, puis justement cette stratégie-là de M. Schmidt a amené ce courant MAGA-là, parce qu'on est dans un courant beaucoup plus, beaucoup plus à droite, beaucoup plus extrémiste, devrais-je dire?
Il y a une influence, puis il y a des liens entre le Tea Party et les MAGA. Mais on est rendu, ce n'est même plus une question de gauche ou de droite, finalement. Il y a beaucoup de modes de gestion là-dedans. C'est non seulement on était plus à droite comme l'était le Tea Party, qui avait même un côté libertarien, mais on est allé ensuite presque 100% derrière tous ces influenceurs qui sont à l'origine d'une bonne partie de la désinformation aux États-Unis. Donc, Sarah Palin, c'était une étape, mais c'est une étape importante. Et on se disait, comment quelqu'un, du moins si on s'en remettait à ses réponses, comment quelqu'un qui a si peu de connaissances de la politique internationale, comment quelqu'un peut-il se démarquer à ce point-là? Elle incarnait une forme de rejet et de frustration de beaucoup d'Américains. Et donc, c'est un peu annonciateur, mais on est rendu beaucoup plus loin maintenant qu'on l'était sous Sarah Palin. Et c'est là donc où Schmidt, qui a vécu l'effet Sarah Palin, le bon au début et ensuite la catastrophe, parce que ça a un peu contribué à couler la campagne de John McCain, c'est là où ses lumières deviennent intéressantes sur l'état actuel du parti. Il le suit, ce parti-là. Il est à l'intérieur du parti depuis des décennies. Et là, ce qu'il nous annonce, c'est effectivement la fin de ce mouvement MAGA. Donc, j'ai aimé le texte d'Yves Wavert et je vais toujours considérer l'opinion d'un stratège, d'une bête politique comme M. Schmidt. Mais malheureusement, si on espère qu'il a raison, les statistiques au moment où on se parle ne lui donnent pas raison. En fait, ce qu'on voit disparaître de l'univers MAGA, c'est, je viens d'évoquer ça un petit peu précédemment, c'est un certain nombre, finalement, d'influenceurs qui s'éloignent maintenant de Donald Trump, comme Tucker Carlson. Mais statistiquement, si on parle des électeurs MAGA, essentiellement, ils sont là. On en a perdu quelques-uns, ce qui est déjà un signal d'alarme. Mais Donald Trump est encore très fort et on vient de le voir en Indiana la semaine dernière. Les candidats qu'il avait appuyés, les candidats qu'il a financés ont gagné les primaires républicaines qui avaient lieu en Indiana. Donc, il a encore une bonne poigne. Je ne suis pas prêt, donc, à suivre le chemin de M. Schmidt. Notons que Donald Trump peut être ébranlé, mais moi, je ne vois pas encore d'explosion du mouvement MAGA.
Il y a un parallèle qui va être intéressant de suivre et c'est au niveau des opposants, c'est-à-dire les démocrates. Parce que M. Schmidt parle justement de la stratégie que les démocrates devraient adopter. Ça ressemble étrangement à une stratégie Barack Obama parce qu'on parle en termes de prétendant pour la prochaine présidence du gouverneur John Ossoff en Géorgie, 33 ans seulement si je ne me trompe pas, et Andy Beshear au Kentucky. Voilà. C'est deux comtés normalement qui devraient être républicains, qui sont démocrates, ces deux jeunes politiciens. Puis là, je sens que les Américains sont prêts à faire ce tournant-là parce qu'on en a soupé un peu de Joe Biden qui se trompait de côté pour sortir de la scène, puis de Donald Trump et de son niveau cognitif qu'on se pose des questions.
Et moi, ce que j'aime bien dans la proposition de Schmidt, il faudra voir maintenant est-ce qu'ils ont un profil au plan national pour se présenter puis espérer ratisser large. Ils ont encore du temps. 2028, ce n'est pas demain. Mais dans un cas comme dans l'autre, Ossoff et Beshear ont besoin de se faire connaître. Ils ont besoin de sortir de leur état respectif. Donc, la Géorgie dans un cas pour Ossoff et le Kentucky pour l'autre. Mais ce qui est drôlement intéressant dans les deux cas, c'est qu'on ne joue pas la carte nécessairement démocrate plus au centre ou progressiste. On va jouer plus le côté pragmatique ou terre à terre. C'est de quoi on parle aux gens. Et comment on s'adresse à eux? Parce qu'on a dans Andy Beshear quelqu'un qui, mine de rien, s'est imposé deux fois dans un État qui est très républicain, et c'est un progressiste. Il était plus progressiste, par exemple, que ne l'était Joe Biden. Donc, il parvient, même comme progressiste, à se faire élire dans un État rouge, républicain. Ça veut dire qu'il a la façon de parler aux gens, en tout cas dans son État, visiblement. Il a la façon et il a les sujets. Et c'est un peu le même comparatif qu'on peut faire pour Ossoff. Ossoff est dans un État qui a longtemps été profondément républicain, mais qui a bougé un petit peu sous Joe Biden. On a vu donc des sièges de sénateurs démocrates être remportés dans cet État-là, et on avait vu Joe Biden s'y démarquer aussi. Mais ça demeure un État républicain. Ça veut dire que ce que les deux gars ont, ou les deux hommes ont en commun, c'est des sujets, les préoccupations de la vie de tous les jours, puis on laisse les grands débats idéologiques, les grandes orientations, les grandes définitions théoriques. On ne joue pas aux profs, ou en tout cas aux chercheurs avec les électeurs. On est prêt à leur parler des préoccupations quotidiennes. Et moi, ça, je pense que c'est une leçon que devrait retenir n'importe quel démocrate pour les élections de mi-mandat, mais aussi pour 2028.
Mais ça reste que c'est divisé aux États-Unis en ce moment, puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont juste perdus. qui ne reconnaissent pas leur pays, qui ne reconnaissent pas les dirigeants ou encore les chefs à la tête de leur parti républicain ou démocrate. On sait comment c'est fait. Est-ce qu'on se trompe dans cette vision-là?
Non, absolument pas. Et c'est un des facteurs qui explique pourquoi il y a autant d'indépendants ou encore, ça fait étrange à dire avec autant de polarisation, mais d'indécis. Les Américains sont plus unis. Ça, les sondages l'ont montré. Hein. On parle de polarisation au plan politique, dans les médias, puis on fait ressortir ça dans les sondages. Mais il y a aussi des sondages qui disent les Américains, dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas si différents que ça. Et ça revient un peu à ce que je mentionnais pour Ossoff ou encore à Beshear, c'est ils en ont assez des grands débats de société là, ou des grandes idéologies. Ils veulent qu'on leur parle du quotidien. Et dans le quotidien, on vit une période, et ça, c'est pas républicain ou démocrate, où les écarts entre les très, très riches et le reste de la population n'a jamais été aussi grand, même pas au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Donc, ça veut dire que ces gens-là sont prêts à entendre parler de « OK, on s'en va où maintenant? On change, entre guillemets, la game ou on change la donne de quelle manière? » Et on est prêt à l'entendre de candidats qui nous parlent de ces sujets-là. Ils peuvent avoir une étiquette démocrate ou une étiquette républicaine, mais il y a du kilométrage ou du millage, puisqu'on est aux États-Unis. Donc, il y a du millage à faire avec ces préoccupations-là, au-delà de la partisanerie. Il ne faudrait pas négliger un des facteurs de la dernière campagne électorale, Pascal, et ça rejoint, c'est un élément supplémentaire pour compléter la réponse, mais il y a des gens qui ne se sont pas présentés aux dernières élections pour aller voter. On a parlé du fait que Donald Trump gagne à la régulière, et c'est vrai. L'écart qui le séparait de Kamala Harris n'était pas si grand que ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est le nombre de personnes qui ne se sont pas déplacées pour aller voter. Ça veut dire qu'il y a des votes à prendre. Il y a des gens à faire sortir de chez eux encore. Et au risque de me répéter, je pense pour la troisième fois, parlons-leur de ce qui les préoccupe sur le terrain. Il y a une foule de débats qui sont utiles dans une guerre culturelle, mais qui ne mettront pas de pain sur la table, qui ne vont pas réduire la facture d'épicerie ou le prix de l'essence. Il y a beaucoup de choses très terre-à-terre avec lesquelles l'accès à l'éducation, par exemple, avec lesquelles on va être plus gagnant si on approche ces gens-là.
On termine, Luc, avec le conflit en Iran. Encore une fois, des négociations qui n'ont pas amené à un résultat. On écoute, c'est sur LCN ce matin, donc la traduction en français par-dessus. Ce point de presse, ma foi, comment qu'on pourrait le qualifier, Pascal?
Brouillon.
Brouillon de Donald Trump?
L'entente sur le nucléaire de l'Iran, écrite par Barack Hussein Obama, qui aurait permis à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire en l'espace d'un an. Il aurait eu de cela plusieurs années. J'ai mis fin à cette entente à mon premier mandat. Et puis, avec ce magnifique avion juste ici, je les ai frappés très fort. Nous avons frappé très fort. Ils m'ont dit, vous savez, je vais simplement vous dire ceci. Ils disaient, non, peut-être que ce n'était pas si fort comme frappe. L'Iran me l'a dit très clairement. Ils voulaient nous donner la poussière nucléaire, comme je l'appelle. C'est de cela dont ils nous parlaient. C'est...
Donc, on passe de Barack Hussein Obama à « je les ai frappés très fort avec l'avion à côté ».
Mais l'Iran dit non.
C'est ça. Mais là, on est rendu quoi? Au-delà de 70 jours, puis il n'y a rien qui s'améliore. C'est vraiment une épine dans le pied de Donald Trump, puis une épine que qu'il s'est mis lui-même. Là.
Écoute, on traîne ça comme un boulet là, en Iran, puis aux États-Unis, quand on regarde la réaction de la population à ce que fait actuellement la gestion de Donald Trump. Mais on va traîner ça comme un boulet aussi à bord de l'avion qui nous amène à Pékin. Parce que Donald Trump, et ça, c'est pas banal non plus, c'est un signal qui est très, très, très fort, c'est pas Xi Jinping qui va se déplacer pour aller rencontrer Donald Trump. C'est Donald Trump qui, pour la deuxième fois, il l'avait fait dans son premier mandat, va se déplacer pour aller négocier avec Pékin. Et ça va être sur fond de conflit en Iran. Et c'est pas pour rien que Donald Trump revient lui-même avec Barack. Vous remarquerez qu'il insiste sur le Hussein Obama. Là, c'est comme le caractère étranger. C'est presque Saddam Hussein. Donc, il va le démoniser. Mais s'il revient avec Barack Obama, c'est qu'entre autres, il ne parvient même pas sur papier à obtenir ce que Barack Obama avait dans cette entente signée avec 5 autres pays. Donc, c'est même maladroit de la part du président de ramener ça comme comparatif. Là où il peut dire, et il a raison, on a touché durement l'Iran, c'est vrai. Mais regardez la réponse de l'Iran, qui contrôle encore le détroit d'Ormuz. La réplique iranienne aux négociations actuelles avec les États-Unis, ça a été particulièrement brutal. C'est...
Entrez nos conseillers d'expérience. Nordique, Première Avenue et Henri Bourassa. Nordique.com. À Québec.
Un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En mai, obtenez le Bronco Sport 2026 à partir de 89 $ par semaine en location 60 mois. Et le F-150 2026 en financement à partir de 0% jusqu'à 72 mois. Pour les meilleures offres, passez nous voir chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se mange chez Desjardins Ford.
Clôture Nordique Orléans, la référence en installation de clôture de verre composite, acier ou aluminium. Service clé en main avec plus de 30 ans d'expertise. Profitez de nos promotions en visitant notre salle de montre. Soumission gratuite. NordiqueOrléans.com.
Ton boss t'a encore dit « on va s'en reparler ». Tes projets avancent à 2 à l'heure, puis t'es tanné de rafraîchir ton écran en attendant que ça bouge. Viens nous voir. Ici, ça avance, puis vite. Chez Trudel, on fait pas juste construire, on transforme Québec. On cherche des gens brillants, créatifs, ambitieux. Du monde qui a envie de faire une vraie différence. Si tu veux évoluer dans une équipe innovante et passionnée, t'es à la bonne place. Va voir Trudel.ca et viens bâtir quelque chose de grand avec nous. Trudel, forgez l'espace.
C'est pas pour rien qu'Abba, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez Abba, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. Abbaextermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. Abba, une solution définitive.
L'Open Mic.
Hey, salut, c'est Audrey. Je t'invite à venir écouter dès 11h en semaine l'Open Mic, un segment où j'offre le micro à des gens qui ont des histoires marquantes qui nous font vivre leur quotidien. On jase de plein d'affaires humaines. On met de côté l'actualité pour une demi-heure. Joins-toi à nous, manque pas ça.
L'Open Mic. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Pourquoi BDC pour mon entreprise? Je sens que c'est le moment. Là. Ça bouge, l'économie change. On me parle d'automatisation, d'intelligence artificielle. Puis moi, je me dis, faut que je me lance. J'ai besoin d'un prêt, mais aussi d'un vrai coup de main, quelqu'un qui m'accompagne là, pour vrai, puis qui va m'aider pour les prochaines étapes. Maintenant, là, pas plus tard.
Préparez la suite avec BDC. Obtenez du financement et des conseils adaptés à vos projets. Découvrez comment à bdc.ca/financement. BDC, financement, conseil, savoir-faire.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance et jouez la roulette au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Pour vos pièces automobiles, c'est Nordique. Pour vos pièces d'auto au meilleur prix avec un service hors pair. Ne vous laissez pas berner par la compétition. Le prix, c'est pas tout. Bien sûr, nous avons les prix, mais surtout le choix et les explications du pourquoi ceci ou cela selon vous. Vos besoins avec le sourire. Freins, suspension, entretien général, on a tout ça. Votre budget, on le respecte et on vous donne ce qu'il y a de mieux pour vos dollars. Bas prix, qualité et service depuis 45 ans. Nordique, Première Avenue et Henri Bourassa. Nordique.com.
Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Réno. Envie d'une salle de bain à votre image? Nos douches complètes sont offertes à partir de 489 $. L'entrepôt de la Réno, ouvert au public, sortie Chauveau sur Henri IV. EntrepôtDareno.com.
Déjà au volant d'une Volkswagen? C'est le moment d'en profiter. Obtenez 1% de rabais sur votre prochaine location chez Laval Volkswagen. Nouveau modèle, nouvelle techno, même confiance, à meilleur prix. Passez nous voir dès aujourd'hui. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Boulevard.
Québec.
102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le Caucus avec Antonin Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlée en semaine.
À Boulevard 102.1. Jusqu'à 14h, on en jase.
Boulevard 102.1.
Avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Déjà 13h08. Mardi soir, ça sera le prochain match du Canadien de Montréal contre les Sabres de Buffalo. On va en parler avec Alex Laramée dans quelques instants. des deux matchs de ce week-end. Ce soir, 20h, c'est l'Avalanche du Colorado qui visite le Wild du Minnesota. Le Wild qui a remporté samedi son match 5-1. Et on va également parler des Hurricanes de la Caroline qui ont éliminé les Flyers de Philadelphie de cette série 2-2 entre les Ducks et les Golden Knights de Vegas. Mais avant ça, Pascal, il y avait point de presse de la première ministre Christine Fréchette.
Oui, puis je t'en parlais en disant, bon, on parlait entre autres qu'on voulait souligner la mémoire des policiers qui sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. C'était le point, hein, pourquoi on était à l'École nationale de police. Par contre, ça vient toujours avec un scrum, mais les journalistes avaient d'autres questions parce que ça a été l'implantation pour la première fois du DSN en fin de semaine, en projet pilote dans certains secteurs. Ça a bien été pour le week-end, vraiment moins bien ce matin du côté de Montréal. Je ris, mais tu sais, on rit pas nécessairement, là, dans le sens où on savait qu'il allait y avoir des frasques, mais là, ce matin, ce qu'on observait, c'est qu'il y a eu plusieurs personnes incapables de se connecter au système EPIC, les appareils fonctionnaient pas, absence des examens de radiologie dans le système aussi, manque de super utilisateurs sur les étages pour accompagner les médecins, des informations confidentielles de patients qui ont coulé à des personnes non autorisées, absence de papier dans les imprimantes, on prenait les signes vitaux sur du papier brun. C'était particulier ce matin, il y a des gens qui sortent en disant, hey, on n'est pas des informaticiens. Il y a une résistance. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que Christine Fréchette allait se faire questionner là-dessus. On peut entendre une des cotes de Christine Fréchette, donc une des clips où elle parle de cet enjeu-là du DSN jusqu'à présent.
Et moi, je veux saluer le travail des équipes parce que dans les centres concernés, ça s'est bien déroulé au cours de la fin de semaine. On voyait même déjà des membres du personnel dire que ça leur permettait de sauver déjà du temps dès la première fin de semaine. C'est quand même salutaire. Alors, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un volume plus important d'utilisation du nouveau système, mais je suis confiante que les équipes vont être sur le terrain, très actives.
Sinon, on a abordé l'antivirus. C'est quand même important. On a un peu cette ère de COVID-19 qui n'est pas trop loin. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 4 Canadiens qui ont été exposés. Ils étaient à bord du paquebot. Ils sont à Victoria en ce moment, placés en isolement. Jusqu'à maintenant, l'éclosion, c'est 3 morts, plusieurs autres personnes hospitalisées. C'est beaucoup moins contagieux que ce qu'on a vu avec le COVID-19. L'Organisation mondiale de la santé poursuit ses enquêtes. Christine Fréchette, première ministre du Québec, s'est dit assez rassurée parce que ça semble être sous contrôle.
Écoutez, pendant la fin de semaine, c'était sous contrôle. On avait les gens qui allaient être acheminés vers Bagotville. Il n'y a pas eu de notion qui nous amènerait à être inquiets par rapport à la situation. C'est bien pris en charge. C'est sûr que c'est surveillé attentivement. On est encore en étroite communication avec le gouvernement canadien.
Excellente nouvelle là, dans ce cas-ci, parce que moi aussi, je pensais à COVID en fin de semaine. Je disais, on n'en rembarque pas là-dedans. Là.
Ouf, ça ne serait pas drôle. Hein? On commence à avoir tous les déboires financiers de ça. Donc, oui. Locke Merville, le chanteur, il a écopé d'une peine de 2 ans de prison pour agression sexuelle à l'été 2000. On était dans le dossier. On en a parlé en début d'émission. On y reviendra avant de terminer. Il y a une infirmière qui a été punie pour avoir injecté un agent paralysant au lieu d'un anti-acide. C'est ici à Québec, Jeff, dans la capitale nationale. Mm-hmm. Une infirmière clinicienne au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux. Puis, elle a été radiée pour 5 mois dans cette démarche-là. En fait, le patient devait se faire injecter le Zantax au lieu du Zimuron. Et malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Alors voilà, il y a eu des réactions à tout ça. Donc, elle est punie pour avoir injecté le mauvais liquide à l'intérieur du patient.
Puis dis-moi là, il y a de quoi qui se passe à Val-d'Or, là, dans la région natale de Max Larouche. Je ne suis pas une autre...
Non, mais... on n'est pas dans l'anulingus.
Non,
on
OK, parfait.
Non, mais on est dans quelque chose d'assez troublant. Je ne sais pas si je devrais déménager à Val-d'Or pour être première sur la nouvelle. Mais là, on parle d'un castor qui aurait été égorgé en plein centre-ville de Val-d'Or.
Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il avait fait, ce castor-là?
Écoute, quelqu'un qui a mal réagi, hein, citoyen qui a appelé le 911 parce qu'on a découvert un couteau taché de sang. C'était sur une artère très achalandée de Val-d'Or. Là, on cherchait une scène de crime, puis on a suivi la traînée de sang au sol sur une distance de quand même plusieurs centaines de mètres. Puis c'est arrivé à une résidence de la rue du Curé-Roy. On est entré à l'intérieur, puis on pensait qu'il y avait une personne blessée. On était prêts à tout. Mais finalement, la victime, c'était un castor, bête qui a été attrapé au centre-ville par un résident, puis qui a décidé qu'il l'égorgeait. C'est épouvantable quand même.
Complètement dégueulasse.
Pas d'arrestation de la part de la Sûreté du Québec pour le moment dans cette affaire. Le monde a confirmé qu'on a ouvert une enquête pour cruauté animale. Castor décédé, bon, ça, ben je vais vous le dire. Et là où les habitants, parce qu'on n'est pas clair là-dessus, comptaient vraisemblablement le faire cuire pour le manger plus tard cette semaine. Alors là, on a avisé aussi les agents de la protection de la faune. On dit que la viande de castor, c'est comestible, c'est riche en protéines. C'est peut-être ça qui a attiré ces gens-là.
Mais là...
Écoute, c'est quasiment des... Dans l'article, on donne quasiment des astuces de cuisine. Non, mais c'est à ne pas faire.
Non.
Puis des... Bon.
J'ai les frissons.
Je me dis, Jeff, c'est peut-être moins inquiétant que la personne souhaite-elle manger. C'est une histoire d'insécurité alimentaire. On n'a pas d'argent. On s'est dit, garde, ça va être du castor.
Ouais.
Du castor cette semaine. Puis on a pensé à la famille. Au moins, c'est pas une histoire de geste à la Luca Rocco Magnotta, de ce qu'on comprend.
Bref, il se passe toujours des choses particulières à Val-d'Or. À Montréal, cependant, Pascal, il se passe la fête! Ben ouais, écoute-moi ce monde-là. En feu à Montréal. Là, c'est la nouvelle vedette, Jacob Dobesch, qui va s'amener. Il a écrit son nom. Eh, salut. La folie. Alex Laramin, chroniqueur sportif pour nous et journaliste au 99.5 Montréal, est avec nous pour en parler. Alex, c'est la folie furieuse. Bon, à mon grand désarroi, puis là, j'ai mon grand désarroi de prédiction, parce que je dois t'avouer que, Colin Debin, je suis embarqué dans cette fièvre-là du Canadien. Montréal l'emporte deux fois cette fin de semaine, 5-1 à Buffalo, 6-2 hier à domicile.
Vas-tu les aimer pour vrai ou ça va être vraiment une question de série, Jeff?
Je sais pas. Mais bref, on mange du bison!
Ah, c'est le cas de le dire, deux victoires dominantes là, du Canadien en fin de semaine. Ça a commencé évidemment à Buffalo dans le match numéro 2. Ça a été toute une réponse là, du Canadien après le match numéro 1. D'ailleurs, je ne sais pas si on passait où les gens qui étaient inquiets là, après le premier match, là, qui disaient « Ah, il faut que je change ma prédiction. » Moi, j'ai entendu des gens dire « Ah, ça va être Buffalo en 5, blablabla. » Je pense que là...
Hypocrite opportuniste.
Ben exactement, là. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Pascal. Mais c'est ouais, tu sais, la crème est vraiment remontée au-dessus. Là. Les Canadiens ont vraiment joué deux matchs pratiquement impeccables. Puis ce que j'ai aimé particulièrement dans le match d'hier, c'est on a vu un scénario un peu dans le match numéro 1, hein, Buffalo qui marque très rapidement. Là, après moins d'une minute de jeu, on a vu que le Canadien n'a pas été déboussolé. On a rapidement été capable de répliquer. Puis après, on a pris l'ascendant sur ce match-là. Puis honnêtement, 4-2, là, moi j'étais zéro inquiet qu'on allait fermer ce match-là, puis après, le cinquième but est vraiment venu clore le débat. Donc, c'est très impressionnant la performance du Canadien, en fait.
La défensive agile et rapide du Canadien a le dessus sur les gros attaquants des Sabres. C'est tout simplement ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le Canadien relance tellement l'attaque rapidement et leur domination dans le cercle des mises au jeu fait en sorte que Montréal a la rondelle sur la palette plus souvent qu'à son tour.
Ah ouais, tu parles de la domination des mises en jeu. Là, je regardais les pourcentages. T'sais, Suzuki est à 57%, Evans est à 61%, Dano 61%. T'sais, nos gros centres, là, même Kirby Dach, 56%. Là, je veux dire, c'est complètement impressionnant. Tage Thompson, lui, de son côté, est à 35%. Là, fait que ça vous prouve comment le Canadien domine. Puis tu parlais des défenseurs. C'est un point qu'on avait identifié hein, au début de la série. Hein, la défensive de Buffalo sont gros. Regardez le but d'Juraj Slafkovský. Il est tout seul.
Ben oui!
Il est tout seul devant le filet. Les défenseurs sont dans une autre province à côté. Ça n'a aucun bon sens comment cette défensive-là est désorganisée en ce moment. Mais tu sais, je veux dire, tu ne peux pas laisser un gars tout seul de même devant ton filet. C'est un but beaucoup trop facile pour Juraj. Puis oui, la défensive du Canadien est définitivement meilleure.
Et le Canadien attaque justement les gros défenseurs comme Logan Stanley, comme Sam Wilson, comme Owen Powers avec leur vitesse et les défenseurs des Sabres, malgré leur stature, n'ont pas de réponse. Prochain match demain soir. Tu t'attends à quoi? Moi, d'après moi, le Canadien va remporter un troisième match de suite. Là, Buffalo avait l'air abattu hier après le match. Tate Thompson qui a parlé de la foule qui a été un ennui pour les Sabres. On dirait que je vois pas comment les Sabres vont rebondir.
Ben, moi, je pense que c'est le deuxième match à domicile. Je pense qu'on va gagner ça. Par exemple, je m'attends à ce que quand même Buffalo ait peut-être un peu de cœur au ventre puis remporte le match 5. Là, moi, j'avais dit Canadien en 6. Puis on dirait que le scénario de finir ça samedi prochain à Montréal, ça serait tout simplement parfait. Mais du côté de Buffalo, va falloir se poser des questions. Là, Lindy Ruff, je ne sais pas s'il dort au gaz, il est trop vieux, il a besoin d'une sieste, là, mais il va falloir qu'il se réveille et Puis je m'attends à un changement devant le filet aussi parce que,
oui.
C'est pas nécessairement sa faute, Alex Lyon, là, mais vendredi, il a accordé des mauvais buts. Là. Je veux dire, le tir de Matheson, oui, était bien placé, là, mais ça doit pas rentrer dans un match de série. Fait que moi, je m'attends à voir Luukkonen devant le filet pour le match de demain.
Vous les estimiez tellement forts, vraiment plus forts même que le Lightning, plus forts que le Canadien.
Vraiment?
Puis moi, je fais confiance quand même. Je vous niaise souvent, mais sur les aptitudes des hockeyeurs, je pense que vous êtes qualifiés pour les commenter. L'affaire, c'est que c'est une histoire entre les deux oreilles. Puis le Canadien, en ayant remporté deux games, est-ce qu'ils vont tellement être au-dessus de leurs moyens, de leur pensée à la prochaine game qu'il y a un risque de l'échapper?
Le Canadien est rentré dans la tête des Sabres, à commencer par le gardien de but, Jacob Dobesch, qui se permet même de narguer les Sabres. les Sabres n'ont pas beaucoup d'expérience en série, puis ça a tout simplement paru dans le match d'hier.
Ah oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi, Jeff. Les Sabres, c'est pas compliqué, ils jouent comme s'ils étaient en saison régulière. Là. Ils sont pas capables d'aller chercher la deuxième vitesse. Puis même sur le plan physique, on les domine. Là. La séquence vendredi, Josh Anderson qui pogne Greenway, là, qui s'adonne à donner des mises en échec. Mais quand c'est le temps de répondre, les joueurs des Sabres sont totalement absents. On a vu Bolduc hier donner 2-3 bins à Malenstein qui a foncé dans Jakub Dobesch. La fin de match, Jack Eye, une bonne droite
à
au
Carrick.
Visage. Ah ouais, non, tu sais, pour moi, ce moment-là, c'est vraiment comme on leur a sacré une volée, c'est terminé, puis Buffalo, on va faire une bouchée d'eux autres.
Les Hurricanes de Caroline ont éliminé les Flyers 4-0 dans leur série. Belle victoire en prolongation sur un but de Jason Blake. Hier, les Ducks d'Anaheim ont créé l'égalité 2-2 contre les Golden Knights de Vegas. Mais en terminant, Alex, je veux qu'on parle du match de ce soir. Le Wild du Minnesota qui reçoit l'Avalanche du Colorado à 20h. Quatrième match de cette série, le Wild qui a remporté un gros match 5-2 de samedi soir. Et là, on commence à se poser des questions pour le gardien de but de l'Avalanche. C'est jamais bon, ça.
Non, c'est sûr que quand tu as des questions sur ton gardien de but, c'est pas évident. Mais il fallait s'y attendre. Je veux dire, Minnesota, c'est tout un club là, quand même. Là, de retour à domicile, fallait qu'ils sortent une bonne partie. Moi, je m'attends ce soir à ce que même Minnesota l'emporte. Là, je vois un match quand même assez serré, là, un 4-3 Minnesota. Mais pour moi, Colorado ont des meilleurs talents. Ils vont finir par remporter cette série-là. Mais quand même, Minnesota va donner une opposition. Là. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Colorado gagne ça en 4 ou en 5.
En effet, donc ça va être un très bon match de hockey ce soir, 20h. Et on vous le rappelle, 19h, mardi soir, quatrième match de la série entre les Sabres et le Canadien. Ça donne bien parce qu'on va te reparler demain, Alex Laramée.
Ah, toujours un plaisir.
Yes, salut! Alex Laramée, chroniqueur sportif pour nous et journaliste au 99.5 Montréal. Après la pause, on parle avec Rose Guertin. Qui est Rose Guérin? Mais c'est cette jeune dame qui veut faire un processus de détransition. On écoute justement une partie d'un témoignage qu'elle a donné sur un podcast, elle et sa mère.
Tu voulais vraiment effacer ton existence.
Oui, je voulais plus que Rose, elle existe. Du tout, du tout. J'étais comme, je pourrais vivre sans que Rose existe.
Fait qu'on devient un gars.
Oui, on change de personne complètement.
Tu sais, j'avais des photos de Rose, ses murs, elle les détruisait, elle les enlevait. Quand je lui parlais, puis je disais « Rose », elle me disait « Rose est morte ».
Pendant que je signais, j'ai lu que ça disait « Je suis majeur et je consens ». Fait que j'ai regardé la personne qui m'a passé le papier, puis j'ai dit « Mais j'ai 16 ans ». Ils m'ont dit « C'est pas grave, fais juste signer, c'est correct ».
On aurait évité bien des drames, parce que quelqu'un qui souffre de troubles de personnalité limite, souvent sont pas bien dans leur corps.
Mais oui.
C'est ce qui a déclenché sa supposée dysphorie de genre.
Avant ton meeting avec ton boss, on en jase à Boulevard 102.1.
Émission en jase de votre lundi 11 mai à la météo. Aujourd'hui, 13 degrés, possibilité d'averse. Mais je vous dirais que ça va être dégagé là, ce soir. Donc, d'après moi, on a pas mal passé par-dessus. 13 degrés généralement ensoleillé pour mardi. Et 15 degrés ensoleillés pour mercredi. Donc, on a un très beau début de semaine sur Québec. 418-971-1021 pour interagir avec nous parce que je suis convaincu que la prochaine entrevue va vous faire réagir. Pascal, on a beaucoup parlé de cette annulation du documentaire Génération Trans de Jean-Pierre Roy au cinéma Cartier. À l'intérieur de ce documentaire-là, il y avait l'histoire de Rose Guérin, qui est une jeune femme qui, à l'âge de 13 ans, s'est fait prescrire de la testostérone pour changer de sexe. Mais à l'âge de 17 ans, alors qu'elle était devenue Maxime, a décidé d'être Rose. Et là, elle travaille fort auprès du gouvernement pour se faire payer son processus de détransition. Donc, on en a beaucoup parlé parce qu'on se pose la question, coudonc, à quel âge qu'on devrait décider cette transition de genre-là? Il me semble que 13-14 ans, c'est les jeunes anti-pêchés.
Puis on se questionne aussi sur l'envers de tout ça. T'sais, dans quelle disposition on fait ces choix-là? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des tests avant qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait avoir des discussions parentales? Parce que les enfants sont beaucoup poussés des fois par des intervenants autour d'eux. En même temps, tu ne veux pas un parent qui est violent dans cette décision-là ou qui n'est pas aidant. Mais c'est pour ça que le documentaire est important, pour avoir tous les angles là-dedans. Puis c'en est un super essentiel aujourd'hui.
Et surtout, amener à la discussion. Rose Guérin est au bout du fil pour nous. Rose, merci beaucoup d'être disponible pour nous à l'émission d'En Jase.
Ça fait plaisir, merci à vous.
Ça fait plaisir. Rose, si on fait juste revenir à l'époque, parce que tu es rendue à 22 ans, si on revient à 13 ans lorsque tu te présentes dans le bureau de la médecin omnipraticienne, est-ce que c'est difficile, justement, de recevoir de la testostérone ou ça se fait en un claquement de doigts?
Bien, moi, dans le fond, à 13 ans, c'était des bloqueurs d'hormones.
OK.
Quand je suis arrivée là-bas, t'sais, on a eu notre première rencontre de 20 minutes, on fait juste se présenter. Puis parler de comment moi je me sens. Puis c'est à la deuxième rencontre que tout de suite ils m'ont prescrit des bloqueurs d'hormones. Il a fallu la signature de ma mère, mais dans le fond, eux, ils ont dit à ma mère que ça me donnerait une pause, le temps de bien réfléchir à ce que je voulais pour pas que je fasse de changement irréversible sur un coup de tête. Là.
OK. On t'a éclairé un peu là-dessus à ce moment-là, mais lors de la deuxième rencontre, automatiquement, on s'en va vers les bloqueurs d'hormones. Lors de la première rencontre, tu dis, on a pris le temps de parler. Est-ce que tu peux nous ramener à l'état psychologique que tu avais à cet âge-là? Qu'est-ce qui était dans ta tête? Comment tu voyais les choses? Puis qu'est-ce qui s'en est suivi?
Ben, dans le fond, moi, à cet âge-là, plus jeune, j'avais vécu des gros traumatismes, puis aussi beaucoup d'intimidation à l'école, puis sur les réseaux sociaux. On me disait souvent que j'étais laide, puis beaucoup d'incitations au suicide aussi que je recevais. Donc, ça a fait que moi, tu sais, quand on te répète beaucoup la même chose, à un certain moment, tu commences à te questionner, des fois même à y croire. Donc moi, j'ai écrit puis j'ai fait des tentatives. Ma première tentative, j'avais, je pense, 11 ans. Donc je leur ai parlé de ça, j'étais au courant. Mais moi, en ligne, j'avais vu des vidéos de personnes qui transitionnaient, puis comme quoi ça allait bien. Donc je me suis dit que, parce qu'après chaque tentative, je me disais, mais je veux pas mourir, pourquoi je fais ça? Puis c'est pour ça que moi, quand j'ai su que je pouvais transitionner, je me suis dit, je vais pouvoir effacer Rose sans nécessairement mourir et faire mal à ma famille, à mes amis. Donc c'est là-dedans que je me suis embarquée, puis juste avec la transition sociale, donc des gros gens de Mathé Maxime, de me parler au masculin, juste avec ça, je recevais beaucoup, beaucoup d'amour en ligne. C'est les gens qui me disaient que j'étais fort, que j'étais beau, beaucoup, beaucoup de compliments. Donc,
tu te sentais accepté là, pour la première fois de ta vie. Là, puis c'est ce mouvement-là qui crée ça.
Oui, c'est ça, parce qu'avec l'intimidation, je me sentais tellement pas aimée. Puis là, on dirait qu'il y avait plein d'inconnus qui m'aimaient.
Oui. À 16 ans, tu te retrouves à faire l'opération de la mastectomie. Tu te retrouves dans le bureau d'un médecin qui te demande de signer un formulaire. C'est un formulaire pour personnes majeures. Explique-nous comment ça s'est passé.
Bien, c'est sûr qu'avant cette opération-là, j'ai eu ma troisième rencontre, qu'on a parlé de comment ça se passe sur les bloqueurs. Après ça, la quatrième rencontre, ils voulaient me prescrire de la testostérone. Ce que ma mère a dit... Non, ça, c'est à la troisième rencontre qu'ils m'en ont parlé. Puis ma mère a dit, ben moi, j'ai jamais vu de signe que ma fille était un garçon, donc j'aimerais avoir un deuxième avis psychologique. Donc, ils nous ont dit d'aller chercher une lettre d'une psychologue, et la lettre, elle disait qu'ils ne pensaient pas que j'étais trans, mais que j'avais beaucoup de traits de personnalité limite, donc de faire très attention. Mais au quatrième rendez-vous, quand je leur en ai parlé, qu'on m'a donné la lettre, ils m'ont dit, ben moi, je te fais confiance. Toi, tu me dis que tu es un garçon, et que tu es un garçon. Donc, ils me l'ont prescrit quand même.
Donc, ça veut dire, Rose, il y a une psychologue dans le dossier qui dit « alerte rouge, je ne crois pas que la transition de genre va venir régler la problématique, mais le médecin omnipraticien fait fi de cette recommandation-là? »
Exactement, puis ça a été dur pour ma mère aussi parce que à 14 ans, j'ai plus besoin de son consentement parental, donc elle n'avait pas besoin de s'y...
Oui, puis là, toi, tu pouvais aller de l'avant avec ça. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que là, il y a un pas de recul quand même qui est pris avec tes 16 ans là, aujourd'hui, est-ce qu'à ce moment-là, toi-même, tu étais convaincue? Qu'est-ce qui te convainquait? Est-ce que tu te sentais différente dans ton choix de ceux qui réellement souffraient? Puis il faisait partie de ceux qui ont une dysphorie de genre.
Ben, je m'en suis pas rendu compte, non, parce que avec tout ça, moi, je me suis convaincue que c'était la solution puis que c'est ce que j'avais besoin. Donc, je pensais vraiment que j'étais trans puis que j'avais de la dysphorie de genre.
Donc, c'est vraiment où est-ce que tu en étais dans la tête. Lorsque tu as fait faire ta mastectomie, c'est un peu comme ça que ça s'est produit aussi. Normalement, c'est des jeunes de 18 ans, on signe un formulaire, mais on t'a dit « Hey, t'as 16 ans, c'est pas grave, avoir go, tu sais ce que tu veux dans la vie. »
Ben, c'est ça, ouais. Dans le fond, je suis arrivé pour signer, puis j'ai juste lu vite que ça disait « Je suis majeur et je consens », puis j'ai dit « Ben, je suis pas majeur, puis on dit « C'est pas grave, fais juste signer. » Fait que j'ai signé, puis j'ai eu mon opération.
À ce moment-là, tu es encore convaincu, tu avances. Maintenant, comment tu vois les choses? Est-ce que tu es capable de faire un genre de constat qu'il y a eu des manquements et que tu aurais aimé être accompagné d'une façon différente? C'est quoi ton opinion face à la transition de genre aujourd'hui?
C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est différent qu'avant parce que moi, à chaque fois que je voyais un changement, tu sais, j'étais juste contente que Rose s'efface, là. Je voyais juste que je devenais complètement une nouvelle personne. Fait que j'étais tellement contente de ça. Mais aujourd'hui, en expansant, ça aurait été tellement important qu'ils règlent les autres problèmes avant. Tu sais, la psychologue pensait que j'avais un trouble de personnalité limite, ce qui s'est avéré vrai. Puis, si on aurait travaillé sur les traumatismes, puis que j'aurais eu plus d'aide psychologique, peut-être qu'après, j'aurais réalisé que déjà là, ça va un peu mieux, puis que c'est pas d'une transition que j'avais besoin.
OK. T'en as-tu parlé sur les forums que tu consultais, les gens qui t'encourageaient? T'en as-tu parlé, ça, de pour toi, ben c'était pas le bon chemin à prendre? Est-ce que tu as eu des conversations avec des gens?
Dernièrement, oui, mais quand j'étais en transition, non. C'est vraiment après la détransition que là, j'ai... Il y a pas vraiment de forum, mais j'ai réussi à regrouper... des personnes en détransition. J'ai fait un groupe puis on discute ensemble de nos expériences.
À 17 ans, justement, quand tu es pour avoir la grande opération, tu décides de ne pas l'avoir parce que tu disais à ta mère, hey, dans le fond, maman, je suis pas Maxime, qui était le nom, justement, que tu t'avais attribué avec ta transition de genre. Je suis Rose, je suis juste une fille qui est mal dans sa peau. Et là, tu es face au gouvernement qui veut pas payer pour ta détransition. Comment tu te sens dans tout ça?
Ben, c'est parce que d'après moi, c'est, tu sais, je comprends que moi j'ai pris une décision d'aller là-bas puis de faire une transition, mais le cerveau est pas développé avant 25 ans. Donc à 13 ans, j'aurais pas pu prendre cette décision-là. C'est eux les professionnels qui m'ont poussé là-dedans en me disant que ça va aller mieux après, ça va régler plusieurs de mes problèmes. Donc ils devraient payer pour l'erreur qu'ils ont fait parce que c'est tellement simple pour les mineurs en ce moment de transitionner. Il va en avoir plein qui vont se tromper. Puis on est beaucoup à ne pas avoir 30 000 $ dans les poches. On va être plein pris comme ça. Là. Ça s'en vient, là, malheureusement.
J'ai une question importante. Je sais pas si tu es capable d'y répondre, mais tu sais, tout ce cheminement-là, est-ce que tu te positionnes comme étant fermement opposé à cette transformation-là, là, c'est le fait de faire une transition, pardon pour le terme, jeune, as-tu un âge en tête? Comment tu te situes aujourd'hui là-dedans? Est-ce que tu luttes pour ton cas personnel ou tu veux aller plus loin là-dedans? Parce qu'on a quand même empêché le documentaire de paraître dans le cinéma. On a de la difficulté, c'est sensible, c'est difficile d'en parler en société. On ne veut pas aller dans les extrêmes, mais c'est quoi ton constat? Toi, tu as vécu ça?
Ben moi, personnellement, je pense que comme j'ai dit, c'est sûr que c'est juste à 25 ans que le cerveau est 100% développé. Mais si au moins on attendait à la majorité, puis que le suivi était plus intense, parce que 4 rencontres, aller sur des hormones qui font des effets irréversibles, c'est rapide. Là. Je pense qu'à partir de la majorité, si ils vérifient que c'est vraiment ça le problème, puis que c'est pas d'autres problèmes en arrière comme des traumatismes ou des problèmes de santé mentale, ben je suis pas contre la transition. Là. Moi, j'y crois qu'il y a des gens qui s'en prennent. C'est juste que je pense qu'il y a peut-être 0,1%. Puis là, on est quoi? On est beaucoup plus que ça en ce moment qui se considère trans. Ça, je pense pas qu'il y en a autant que ça. Là.
Rose Guérin, on te souhaite le meilleur dans ta vie pour le reste. Si je me trompe pas, tu as parti un GoFundMe justement pour pouvoir te faire opérer là, et venir contrer la mastectomie que tu as reçue, c'est bien ça?
Oui, exactement. Dans le fond, pour avoir une reconstruction mammaire et une opération au corps total, j'ai parti de lever de fonds.
Excellent. Et à quel endroit on peut aller contribuer?
Sur GoFundMe, si vous recherchez Rose Guérin, normalement, je suis dans les premiers.
Rose, merci beaucoup pour ton témoignage si touchant. Merci de prendre la peine de nous parler de ton expérience personnelle. Merci de prendre la peine de nous parler de tes pistes de solutions. Franchement, ça fait énormément de sens. Je te félicite pour ton courage.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Merci. Bonne fin de journée. C'était Rose Guérin, une personne rose qui a fait une transition de genre pour devenir Maxime et qui, là, à 17 ans, a dit « Wow, minute ». Je suis Rose et je suis juste une fille qui est mal dans sa peau. Puis elle explique très bien au début de l'entrevue en disant « ben moi, j'ai vécu de l'intimidation. Je me suis fait dire que j'étais pas belle. Je me suis fait dire, fait que je me suis dit « crème, moi, devenir un gars. » Puis quand je suis devenu un gars, ben là, il y a plein de monde qui m'ont dit « Hey, t'es fort. Hey, t'es beau. Hey, t'es si. » Mais imagine, la psychologue avait dit « Non, 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 non. Ce n'est pas une transition de genre que ça lui prend. » Et la médecin omnipraticienne a continué le travail. Et à 16 ans, on lui a retiré les seins alors qu'on devrait faire cette opération-là à 18 ans. Ça n'a aucun sens, les erreurs médicales dans ce dossier-là.
Juste dans ce dossier-là, juste dans l'histoire de Rose, ça amène sur la table l'importance d'en parler, l'importance que ça devienne une question beaucoup moins sensible, beaucoup plus humaine. Okay? Parce que sensible empêche la discussion en ce moment. Humaine, d'après moi, ouvrirait beaucoup de portes.
Ben oui.
Puis elle nuit pas du tout à ceux qui sont en dysphorie de genre. Mm-hmm. Elle veut juste expliquer qu'à un moment dans ta vie, ça se peut que tu te sens super mal, que tu as vécu plein d'affaires, que tu as un trouble de santé mentale, puis que ça fasse en sorte que tu t'identifies à un courant ou à quelque chose à l'intérieur de toi parce que ça t'apporte beaucoup de bonheur. Tu sais, c'est une communauté souvent très inclusive, une communauté qui se défend beaucoup. C'est une belle communauté pour la majorité des gens qui se retrouvent, qui ne sont pas dans les extrêmes, qui permettent la discussion. C'est une belle communauté. Puis Rose, à ce moment-là, ça lui a fait du bien de se sentir une personne à part entière, à quelque part, d'être vue, d'être entendue. Fait que ça a mené à encore plus être convaincue que c'est ça qu'elle devait faire, mais pas parce qu'elle se sentait gars. C'est ça qui est fou.
Exactement.
Puis tu comprends mon terme.
Moi,
là.
Oui.
C'est ça qui est hyper important puis qui est à mettre en lumière. Juste le fait de se sentir aimée puis à bonne place a fait en sorte qu'elle est entrée dans un courant qui n'était pas finalement le sien.
Et c'est pour ça qu'il faut mieux, faut davantage venir justement baliser les transitions de genre pour pas que des erreurs comme ça arrivent. T'sais, par texto, vous êtes plusieurs à réagir. J'en lis un, le pire que je trouve, c'est qu'à 13 ans, tu n'as pas l'expérience. Tu n'as même pas connu la chaleur humaine. Comment tu peux dire que tu fais de mieux en étant de l'autre côté? En effet, puis moi vraiment, c'est que la psychologue, elle dit « Hey, écoutez-moi bien, c'est pas ça la problématique qu'on fasse fi. » Ouf, ça me donne froid dans le dos. On va continuer dans les dossiers plus humains parce que après la pause, on va parler avec Nathalie Trottier. C'est une ex-victime de violence conjugale. Elle fait des conférences maintenant là-dessus. On va revenir sur les propos haineux qu'on a vus au bas d'un article dans le Journal de Québec concernant un féminicide à Gatineau.
On en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h. On en jase.
Et oui, jusqu'à 14h. On en jase de 14h à 18h. C'est le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey. À 18h, on est lundi, Marceau le soir avec Marc Bellemare. Et 19h, c'est le cinquième et dernier épisode du podcast des grands événements avec Denis Gravel. Il s'entretient avec Julie Lemieux, ex-journaliste pour le quotidien Le Soleil. On parle des fêtes du 400e qui ont été un beau succès. Ouf! Après une bien grosse frousse. Pascal, épouvantable ce qu'on a pu lire dans les commentaires sous un article du Journal de Québec où on parlait du 10e féminicide de l'année qui s'est passé dans la région de l'Outaouais. Mac Robitaille, c'est vraiment triste pour les enfants, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Ah ben, Steve Hébert, un autre homme poussé à bout. Martin Poirier, peut-être est-il temps de revoir les lois abusives qui avantagent les femmes lors de séparations et il y en aura moins. Tojam Dom qui dit « C'est très triste, mais je trouve qu'on met trop d'emphase sur les féminicides, mais qu'on ne parle jamais des hommes qui se suicident à cause des femmes. » Alors, comme si les féminicides, Pascal, c'est le résultat du mauvais comportement des femmes. Tu sais, on connaît tout ça dans la vie. Là. Si tu n'aimes pas quelqu'un, quelqu'un n'est pas correct avec toi, tu le tues, puis on règle ça de même.
Il n'y a pas besoin d'avoir, par exemple, quelque chose d'éclipsé pour parler d'autre chose. On va parler c'est du ça. Féminicide, puis il n'y a pas de problème. On peut aussi parler des hommes qui s'enlèvent
ben
la vie.
Ben oui!
Il y a rien qui empêche, au contraire, on veut venir en aide à tout le monde.
Oui.
Mais de discréditer et diminuer ce problème-là qui est hyper important, ça, ça passe pas.
Ah non, ça fait aucun sens. Et pour en parler avec nous, on a Nathalie Trottier. Elle est une ex-victime justement de violence conjugale et elle est aussi conférencière. Nathalie, merci de prendre le temps à l'émission d'En jase avec nous.
Bien, merci de la belle invitation. Ça
fait plaisir. Nathalie, quand tu lis des commentaires comme ça, est-ce que ça te ramène justement dans ton épisode de violence conjugale là, qui a eu lieu là, au début des années 2000 jusqu'à vers le milieu des années 2010?
Ben, je te dirais que ça me donne la chair de poule. Puis je trouve ça inquiétant. Et souvent, j'en lis des commentaires comme ça, puis je suis vraiment sans mots. Donc, je pense que c'est important qu'on éduque, puis avec la montée du masculinisme aussi. Puis, comme vous disiez il y a 30 secondes, c'est pas parce qu'on parle de féminicide qu'on efface les autres problématiques sociétales qui existent, là.
Est-ce que, Nathalie, vous considérez qu'il y a un tournant en ce moment, puis que c'est de pire en pire la façon dont on voit cette forme-là de violence conjugale qui arrive avec une finalité épouvantable et tragique?
Bien là, c'est quasiment sans précédent. On est quand même rendu à 10, puis on n'est même pas rendu à la moitié de l'année. Si ça continue comme ça, on va vraiment battre des records, malheureusement. Donc, il faut qu'on se questionne. En fait, la violence conjugale, c'est vraiment c'est un problème sociétal, hein? Puis je pense que là, il y a urgence d'agir à tous les niveaux, en sensibilisation, prévention, d'avoir plus de subventions pour les organismes, autant les organismes qui aident les hommes que les maisons d'hébergement ou autres. Puis je pense qu'il en existe des solutions, mais ça demande une réelle volonté politique aussi.
Nathalie, tu as été aux prises justement avec un conjoint violent pendant 10-15 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu restais toujours dans ce barème-là, dans ce milieu-là de vie?
Ben en fait, je vais te corriger parce que moi, j'ai eu une sentence à vie. J'ai été 25 ans, en fait, 25 ans.
Excuse-moi.
Ouais. Ben écoute, j'ai été 25 ans, de 16 ans à 41 ans. C'est en 2012, après être allée à 8 reprises en maison d'hébergement, en 2012, que j'ai enfin réussi à m'en sortir. Les statistiques sont... ça prend environ 7 à 8 fois en moyenne à une femme avant de quitter pour de bon. C'est multifactoriel, j'ai envie de te dire, les raisons qui font qu'on reste. C'est sûr que c'est d'emblée la peur, la peur pour notre sécurité, pour nos enfants. Moi, j'ai 3 garçons. La peur, il y a toutes les formes de violence aussi. Moi, j'avais tout le package deal, comme on dit. Donc, la violence économique, si tu n'as pas d'argent pour t'en aller, puis aujourd'hui, il y a encore plus d'obstacles parce que les Les logements sont pas à prix abordable. Il y a plein d'enjeux maintenant. Tu sais, moi, en 2012, quand je suis partie pour de bon, j'avais pas la violence, la cyberviolence dans ma vie. Mais aujourd'hui, il y a ça aussi là pour traquer, puis être en permanence suivi. Puis donc, il y a encore plus d'enjeux.
C'est vrai, la fameuse géolocalisation, hein, où l'homme maintenant peut savoir en temps réel ou sa blonde. Et ça, c'est catastrophique.
Tu peux craquer plein d'affaires. Tu peux mettre des AirTags à plein d'endroits. En passant, ça peut être reconnu criminel, mais il y a énormément de choses. La technologie qui était initialement pour aider, qui est devenue aidante aussi pour des criminels.
Tout à fait.
Non.
Tout à fait.
Nathalie, qu'est-ce que tu conseilles? Parce que on a beaucoup de femmes à l'écoute, puis malheureusement, je suis certain dans la gang qu'il y en a une présentement qui subit de la violence conjugale. Qu'est-ce que tu conseilles à cette femme-là pour qu'elle ait le courage de quitter son milieu de vie malsain?
Bien, moi, je dirais d'aller vers les ressources. Évidemment, on a des listes d'attente. Mais ça n'empêche pas qu'il faut appeler SOS violence conjugale, aller voir c'est quoi les scénarios de protection, parce qu'on se cachera pas que quand on quitte une relation abusive, ben c'est là que le danger de féminicide est le plus imminent. Donc c'est important de connaître ces scénarios là, de ne pas lui dire en personne ben écoute, je suis plus capable de t'endurer, je vais m'en aller, parce que exemple, moi quand j'ai dit ça, ben c'est là qu'il a essayé de m'étrangler. Donc, et une femme qui a subi une strangulation, c'est important de savoir qu'elle est 750% plus de risque de se faire tuer par cette 700. Personne-là.
700%.
750%, oui. 750%.
Quand on est dans l'entourage, là, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui est aux prises de cette violence conjugale-là?
Bien, d'abord et avant tout, de la croire, de ne pas la juger, de lui dire qu'elle est beaucoup plus forte qu'elle pense. De lui parler des ressources et des scénarios de protection, de lui dire que la violence qu'elle vit, c'est pas de sa faute, qu'elle peut pas changer ni sauver son agresseur, il changera pas, il changera jamais. Donc, il faut se choisir. Essayer surtout, je dirais, l'entourage est le meilleur filet de sécurité pour les victimes. Donc, il faut absolument garder le plus possible le contact avec elle. Et même si on comprend pas l'ambivalence de la victime, pourquoi qu'elle reste, pourquoi qu'elle s'en va pas, ben moi j'ai envie de dire, si on regardait dans l'autre sens puis qu'on se disait, mais qu'est-ce que son chum fait qu'elle s'en va pas, c'est pas la même perception. Donc il faut la croire, il faut l'écouter avec bienveillance, lui dire que ben écoute, sache que je suis là, ma porte est ouverte. Quand tu vas être prête, il faut respecter son rythme et ses choix. Quand elle va être prête, puis que vous lui avez ouvert la porte, puis vous lui disiez que vous la croyez sans jugement, bien, c'est vers vous qu'elle va se tourner quand elle va être prête, puis vous serez là, puis vous pourrez lui dire, bien, t'es où, je vais aller te chercher.
Nathalie, c'était vraiment une superbe façon de conclure cette entrevue-là. Rester ouvert, rester présent, rester disponible, et de cette façon-là, quand la personne sera prête à quitter son milieu malsain, c'est à vous qu'elle va faire confiance. Nathalie Trottier, félicitations pour le courage que tu as démontré dans ta vie personnelle. Merci infiniment d'en parler ouvertement via tes conférences, via tes entrevues. Ouais. Puis on se refait signe un de ces quatre.
Super. Merci beaucoup.
Merci, Nathalie. C'était Nathalie Trottier, conférencière et ex-victime de violences conjugales. Seulement rappelant en terminant l'émission, Pascal, que si vous êtes un homme puis que vous vous reconnaissez malheureusement dans les comportements violents qu'on vient de décrire, faites le 8-1-1, option 2. C'est les services sociaux. Vous allez tomber sur des travailleurs sociaux. Ils vont vous guider vers des ressources. Faites-vous guérir.
Attendez pas que la soupape saute.
Non.
Faites-vous aider aussitôt que vous avez les premiers signes, quand vous voyez que vous êtes toxique en relation, puis vous allez vous-même vous libérer de quelque chose qui pèse.
Ouais. Et les hommes les plus courageux sont ceux qui se font soigner.
Ah, tellement.
Donc, allez-y. Tellement. Usez de ce courage-là, messieurs, je vous le dis. Ça va valoir la peine. Vous allez avoir une vie heureuse par la suite. J'en suis convaincu. Pascal, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Ce soir, l'Avalanche contre le Wild à 20h.
Moi, ça va être demain, le Canadien.
Le Canadien contre les Sabres, demain, 19h. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur les ondes de Boulevard 102.1. Le retour de Gravel, tu fais à l'instant même. On se dit à demain.
À demain.
Salut, à demain.